Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « La communion par la rédemption » prêché au Tabernacle Branham le 3 avril 1955, Jeffersonville, Indiana, USA. Bonjour les amis, je suis à nouveau dans la joie d'être ici ce matin au service du Seigneur. Comme je le disais, je suis un peu fatigué. Je pensais avoir aussi eu la grippe, mais j'étais juste épuisé d'avoir trop travaillé. J'ai eu 5 semaines d'affilée, et cela a comme tout pris la résistance que j'avais, bien que ça ne m'ait pas empêché de prendre du poids. Je continue à prendre du poids tout le temps. Mais la plupart de mes dernières réunions consistaient, plus ou moins, à simplement prêcher, vous voyez, et c'est ce que cela fait. Nous avons eu très peu de services de guérison, mais la plupart étaient centrés sur la prédication. Nous sommes vraiment reconnaissants du privilège d'être ici aujourd'hui à servir le Seigneur, d'être au tabernacle, d'être de nouveau avec Frère Neville. J'ai reçu toute une introduction et ça vous relève si ça n'allait pas trop bien. Cela vous ferait vous sentir bien, non, de savoir que les gens vous aiment. Et n'aimez-vous pas que quelqu'un vous aime? Moi, si. Un soir, comme je sortais du tabernacle, et j'espère qu'ils ne sont pas déjà en train d'enregistrer, mais comme je sortais d'ici, oh, il y a quelques années déjà, une dame m'a dit, ici à l'arrière, elle m'a dit, « Oh, frère Bill, c'était assurément un bon message ce soir. » J'ai dit, « Merci, sœur. » Oh, ça m'a réconforté, vous savez. Arrivé à la porte, il y avait là un gars qui m'a dit, « Vous savez, je ne pourrais appuyer cela. » J'ai dit, « Quoi donc ?» Il a dit, « Oh, je ne voudrais pas que quelqu'un me vante ou dise quelque chose. » J'ai dit, « Moi, oui, voyez. » J'ai dit, « Il n'y a qu'une différence entre toi et moi. Moi, je dis la vérité. » Voyez, vous apprécierez que quelqu'un vous complimente pour les efforts que vous faites. Ça vous rassure ensuite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais annoncer, si Frère Neville et la congrégation en accord avec le bon Seigneur, j'ai mis cela à l'essai depuis environ 7 ou 8 ans et réussi 2 fois. Et j'aimerais, si possible, avoir un service régulier de guérison dimanche matin prochain, un simple service régulier de guérison. On en a fait l'expérience bien des fois. Cela avait bien marché le soir qu'on l'avait eu ici et le Seigneur a été si bon pour nous. Les journaux en ont parlé. Il y avait une fille dans une chaise roulante. Elle était ici depuis longtemps, la seule chaise roulante qu'il y avait dans la salle, je crois. Quelque chose n'allait pas avec elle. Elle avait négligé quelque chose à un appel du Seigneur. Cela faisait environ 17 ans qu'elle avait été dans cette chaise roulante. Et juste ici, quand ils ont monté sa chaise roulante sur l'estrade et qu'ils l'y ont assise, elle s'est levée d'un bond et elle est sortie d'ici une femme guérie, marchant normalement. Il y avait sur l'estrade un homme sur un lit, comme le journal le relatait, et il ne tenait plus qu'à un fil, et le Seigneur l'a guéri. Il n'avait pas marché, je ne sais depuis combien de temps. Il s'est levé et s'est mis à marcher. Et puis, un soir, à l'école secondaire où cela avait lieu, le Saint-Esprit descendit, et nous avions un service régulier de guérison. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'entre eux ici. Je crois que ce Rooks y était, ou je crois que c'était ce soir-là qu'elle a été guérie, si je ne me trompe. Eh bien, des choses se sont produites en ce temps-là, durant ces services de guérison. Nous avons essayé à 2 ou 3 autres reprises de les avoir. Ce n'est pas très souvent, étant donné que c'est ici. Quiconque sait ce que l'Écriture dit du fait d'être chez soi parmi son peuple, et ainsi de suite. C'est en quelque sorte étrange, mais ça ne marche pas comme ça devrait, vous voyez. Combien aimerait avoir un vrai service de guérison ici au tabernacle? Oh, prierez-vous pour cela? J'avais donné des cartes à Léo et à Jean ce matin. Ils étaient ici quelque part et puis j'ai pensé, eh bien, je pourrais venir distribuer les cartes de prière et faire une ligne de prière. Et par la suite, j'étais si fatigué que, bon, j'ai pensé qu'il valait mieux juste venir et apporter un court message. Y aura-t-il un service du lever du soleil? Un service du lever du soleil qui commence de 5h à 6h, je crois, ou quelque chose comme cela. Est-ce bien cela? À quelle heure se lève le soleil? 6h, très bien. Ça devrait être entre 5 et 6 dans ce cas. Ce sera une heure d'adoration, voyez. Maintenant, ça ne va pas vous ennuyer de vous lever si tôt. Oh, les catholiques se lèvent chaque dimanche matin à 7 heures pour aller à l'église. Les protestants devraient donc être disposés à le faire une fois l'an, ne pensez-vous pas? C'est le lever du soleil. Je prêcherai juste un court moment, et puis nous, c'est un service d'adoration. Ensuite, accourez à la maison pour déjeuner. Moi, je n'irai pas, je resterai peut-être à l'église. Et si le Seigneur le veut, et samedi prochain, Frère Neville l'annoncera à son émission, si ça ne change pas, ce sera annoncé samedi matin prochain entre 9h et 9h30, si je ne me trompe pas. Est-ce exact, frère? Sur la chaîne WLRP de New Albany. Et puis, on pourrait aussi mettre une petite annonce dans le journal de Jeffersonville, le journal de New Albany. Beaucoup de nos gens viennent de ces secteurs. Ce sera sur le journal du vendredi ou du samedi de la semaine prochaine. Ensuite, on aimerait y participer. Et après cela, à 9h, j'aimerais que les garçons viennent vous remettre les cartes de prière, à 9h pile. Cela permettra que tout soit en place pour 9h30. Ensuite, je sortirai de la pièce et nous commencerons. Nous aurons notre sermon régulier du dimanche matin, leur lever du soleil de Pâques, et puis nous commencerons une ligne de prière. Ce sera décidé cette semaine si on l'aura ou pas. Il y a des gens ici qui sont des candidats pour le baptême d'eau. Et je pense que la période de Pâques est un des plus beaux temps pour les baptêmes. Et nous aurons ce service des baptêmes à Pâques, soit immédiatement après le service de guérison, soit le soir. Ça signifie une journée entière dimanche prochain. Soyez donc en prière. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Juste un petit rapport des réunions maintenant. J'ai entendu le frère dire que vous avez tous prié. Je dépends certainement de cela. Oh, quand parfois je vois que tout va mal, alors je me dis, eh bien, quelque part, il y a quelqu'un qui prie. Voyez, et ceci m'encourage à persévérer. Et ce dernier service a été le meilleur service de guérison que je n'ai jamais eu sur le continent nord-américain. Les frères Jane et Léo y étaient, les garçons qui sont assis là. Ça se passait à la réserve indienne des Apaches. Ils m'ont donné une journée de repos et je l'ai prise. Je suis monté à la réserve indienne et j'ai tenu la plus grande réunion que je n'avais jamais eue, sinon la meilleure. Et juste un des bons sentiments qui m'est si fortement resté m'est venu pendant la ligne de prière, tandis que les garçons étaient à prendre autant de photos qu'ils le pouvaient avec mon appareil et aussi le leur. Je pense avoir eu 35 visions ou plus juste là. Et quand vous leur parlez, ils ne répondent pas comme nous le faisons, parce qu'ils ne connaissent pas la langue. Et l'interprétation, ils n'ont pas de langue écrite, ça rend cela difficile. Les Apaches ne forment pas de phrases, et ils bafouillent simplement, c'est un tas de mots, et c'est bien difficile de se faire comprendre. Et quelques-uns d'entre eux ne comprennent pas l'anglais. La première vision dont je me souvienne, c'était d'une dame et de son bébé. L'enfant était aveugle, et il lui a dit que c'était causé par le glaucome, ce qui est très répandu parmi les Indiens. Et quand la dame passa par la ligne, son petit bébé a été guéri. Ensuite, je pense que 4 ou 5 muets ont suivi, des personnes sourdes, muettes. Le Seigneur a guéri chacun d'entre eux. Ils sont si simples, tellement simples. Ils n'essayent rien d'imaginer. Ils vous croient, c'est tout. C'est pourquoi vous devez les instruire correctement sur le Seigneur, vous voyez? Pas sur eux-mêmes, parce que ça ne marchera pas. Mais ça doit être sur le Seigneur. Et quand ils le voient vraiment, ils sont comme une bande d'enfants. Dites-leur simplement d'aller faire une chose et ils vont la faire. Et le long de la route, il y avait une belle petite princesse indienne haute comme 3 pommes. Ses petits yeux noirs, aussi beaux que brillants, ne voyaient pourtant rien du tout. Et le frère Marshall, le missionnaire indien de là, m'a dit quand il est descendu dans la ligne, quand il l'a amené dans la ligne, il m'a dit... « Frère Branham, elle est aveugle. » J'ai dit, « Ces beaux grands yeux-là, ces beaux grands yeux noirs ?» Il m'a répondu, « Oui, elle est tout aussi aveugle qu'il est possible de l'être, frère Branham. » Et j'ai agité ma main devant ses yeux comme cela, et ses yeux restèrent fixes. Elle ne pouvait pas voir. Eh bien, j'ai prié pour cette pauvre petite. J'ai regardé, j'ai agité ma main de nouveau, et ses yeux restaient fixes. J'ai pensé, « Oh, cette pauvre petite, pas plus haute que 3 pommes, aveugle !» Et je ne savais pas que son père qui la suivait était aussi aveugle. Donc quelque chose est survenu que je n'avais, je crois, encore jamais vu auparavant. Frère Neville, ce n'était pas comme une vision que vous verriez, mais il semblait que je pouvais me voir amener cette petite devant le trône de Dieu, là-haut, devant Dieu, et dire à Dieu, Père, cette pauvre petite, elle est aveugle, et d'appliquer le sang du Seigneur Jésus à l'enfant. Et puis, quand elle a été assise, et frère, j'avais mon doigt en l'air comme ceci, et j'ai dit, frère marchand, quelque chose s'est passé. J'ai dit, il me semblait que je me voyais monter à travers les cieux avec cet enfant par la main. Et tout en parlant, je bougeais comme ceci, j'ai regardé, et ses grands yeux suivaient ma main comme cela. Elle était là, avec une vue parfaite et normale. Et ils l'ont fait passer dans la ligne. Je crois que c'était les médecins ou quelques-uns d'entre eux de l'endroit. Des hommes en costume se trouvaient là. Je les ai vus la divertir. Vous savez, essayer de lui faire regarder ses doigts et lui faire signe de la suivre. J'ai dit, allez l'examiner, elle va très bien. Et elle était là, normale et guérie. Le suivant était son père et il était aveugle. Et Dieu lui rendit sa vue normale à nouveau, là, par terre. C'est si merveilleux ce que notre Seigneur peut faire. Maintenant, ce n'est pas l'homme qui dispose de ces choses, n'est-ce pas? C'est Dieu qui en dispose. Frère Cox, est-ce que frère Joseph a envoyé the Herald of Faith? On ne les a pas reçus, cela. Pardon? Un frère dit, non, pas encore, pas encore. Vous les recevrez très bientôt, note de l'éditeur. Ce cas-ci, sur la page couverture, est celui d'une dame que la clinique Mayo avait abandonnée. Et comment le Seigneur lui dit où elle était, comment elle avait été et ce qui avait eu lieu. Et la clinique Mayo disait qu'elle ne pourrait plus vivre. On peut voir sa civière sur la photo. Elle s'est simplement levée et elle est rentrée à la maison, aussi bien portante qu'il lui est possible de l'être. Et à la page suivante, on trouve un article des plus saisissants, « Né aveugle ». Je devrais simplement le lire. Est-ce que ça serait bien si je lisais ce petit paragraphe? Ça ne prendra qu'un moment. Frère Branham fait la lecture du témoignage de Madame John Scarlato, tiré du journal The Herald of Faith, volume 22, numéro 4, note de l'éditeur. Mon fils naquit aveugle. Lui et moi étions tous les deux infectés à 100%. Et d'après notre médecin, il n'y avait jamais eu d'autre cas où la mère et l'enfant vécurent. Johnny était toutefois aveugle. Il avait ce qu'on appelle les yeux secs. Il n'avait jamais versé de larmes avant le jour où frère Branham a prié pour lui. Et comme frère Branham le tenait et priait, les larmes coulèrent sur ses bras, et depuis il peut voir. Ensuite, quand il se tourna, quand il vit les gens, il ne savait pas ce que c'était que tout cela. Il n'avait jamais vu de sa vie. Je l'ai emmené de l'église jusque chez sa mère, et je l'ai couché sur un lit. Et il regardait partout, et il s'est mis à jouer avec sa petite voiture. J'avais un rendez-vous avec lui à la clinique Mayo de Rochester, au Minnesota, la semaine d'après. Je n'ai pas annulé le rendez-vous et je l'ai emmené. Ils n'ont rien pu déceler d'anormal dans ses yeux. Ils m'ont dit que ses deux yeux étaient tout à fait bons et parfaits. J'ai emmené Johnny au bureau du médecin pour lui montrer ce qui était arrivé, parce que le médecin demandait à ce qu'on le place dans une école pour aveugles le restant de ses jours. Comment le Seigneur Jésus a fait que ce petit garçon... Savez-vous quoi? La mère et le fils, les deux étant infectés, habituellement l'un d'entre eux meurt, et quelquefois les deux. Mais le petit Johnny naquit les yeux secs, tout à fait durs et secs. Et pendant que je tenais le jeune dans mes bras, je sentis quelque chose de chaud. Les larmes coulaient sur son petit visage jusque sur mon bras, comme ceci. Il me regardait de ses petits yeux brillants, et depuis, il a une vue parfaite. La clinique des frères Mayo a dit que ses yeux étaient normaux. N'est-il pas merveilleux? On ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Cette semaine, priez pour que Dieu nous vienne en aide. Et dimanche prochain, si le Seigneur le veut, de 5 à 6, il y aura un service du lever du soleil. Venez, nous resterons durant l'heure, et dès que le soleil se lèvera, nous donnerons à Dieu la louange pour ce qu'il a fait il y a quelques 2000 ans, quand à l'aube il ressuscita Jésus-Christ. Et nous attendons un autre lever du soleil, la venue du Seigneur Jésus, la seconde fois dans la gloire. Et puis ensuite, à 9h, les garçons seront ici pour distribuer les cartes de prière. Et à 9h30, débutera l'école du dimanche. Maintenant, si vous avez des bien-aimés, amenez-les pour qu'ils obtiennent des cartes. Ensuite, je voudrais venir, je voudrais prendre les vendredis, samedi et dimanche, si le Seigneur le veut, pour simplement jeûner et prier et lui demander de me donner au moins un autre service de guérison, Dieu voulant, dimanche prochain, ici au tabernacle. Après quoi, nous verrons. Si ce n'est pas sa volonté, bon, bien sûr, je n'y pourrai rien. mais nous prierons et essayerons de voir si c'est sa volonté de nous donner le service de guérison. Ensuite viendra le service baptismal, et tous ceux d'entre vous qui sont candidats au baptême, ceux qui n'ont jamais été baptisés, eh bien nous serions heureux que vous veniez. Croyez au Seigneur Jésus et confessez vos péchés et soyez baptisés dimanche prochain. Frère Neville annoncera tout le programme au cours de son émission du samedi matin. Combien écoute l'émission? Ne pensez-vous pas que c'est bien? Je vous le dis, ces chants sont vraiment bons. J'ai entendu le frère Temple à l'émission l'autre jour et j'ai apprécié ce chant qui nous était dédié. Nous étions tous à l'écoute. Ce matin, on ne pensait pas pouvoir venir. Notre petite fille a fait une rage de fièvre la nuit dernière. Oh, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle pleurait et tout, la petite Sarah. Mais je voulais tant être ici. Je suis allé à son lit ce matin. J'ai d'abord enfilé mon peignoir et je me suis rendu à son lit. Et la pauvre petite était couchée là, brûlante de fièvre. J'ai posé ma main sur elle et j'ai dit, « Cher Dieu, je veux aller à l'église. Je veux aussi l'emmener avec moi. » Donc, fièvre, tu ne peux l'accabler plus longtemps. Sors d'elle. Elle est assise à l'arrière, tout ce qu'il y a de plus normal et paisible. Voyez, il est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai un bon ami à moi ici ce matin. Je sais qu'il est un peu timide, réservé. C'est un de mes frères. Il est devenu mon coéquipier, mon compagnon, suite à la grande Alaskan Highway en Alaska. C'était au cours des réunions qui se tenaient à Grande Prairie, où je retournerai dans peu de jours. J'étais à Dobson Creek, en Colombie-Britannique, après quoi j'étais descendu à Grande Prairie, et là, un jeune homme s'était introduit à la réunion, et c'est alors que Dieu s'était saisi de lui, et il lui fallut revenir, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et si frère Fendler voulait bien se lever pour que les gens sachent, il est originaire de Suisse. Que le Seigneur vous bénisse, frère Fendler. Nous sommes contents de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il est celui qui a découvert ce remarquable médicament qui sera sous peu sur le marché, lequel fera le tour du monde. C'est un remède contre l'arthrite. Le Seigneur lui a donné. Ils en ont un échantillon au gouvernement et ainsi de suite. C'est un remède contre l'arthrite, donné par le Seigneur Dieu seul. Amen. Lui disant comment faire. Il n'y avait jusqu'à ce jour rien sur le marché touchant l'arthrite. Mais à présent, le Seigneur l'a donné à frère Fendler et nous en sommes heureux. Avec nous, à la rencontre des hommes d'affaires chrétiens, il y a quelques jours à Los Angeles, où ils ont, oh Dieu, œuvre de façon si merveilleuse parmi les chrétiens. Un frère que chacun d'entre nous connaît très bien, ou qui est un des nôtres ici, c'est frère Chakarian, un frère vraiment remarquable. Le Seigneur l'a aussi utilisé pour une invention. Simplement pour vous montrer comment Dieu opère tout ça. C'est un petit machin qu'il porte sur sa poitrine comme ceci, qui se présente comme ceci et qui sert à trouver du pétrole. Il a découvert un puits de pétrole abondant au Colorado d'une valeur de 25 millions de dollars, je crois. Rien que pour un seul puits. Il prend tous les profits pour envoyer des missionnaires dans les champs étrangers. Amen. C'est ce que frère Fendler est en train de faire avec sa découverte. Cela rapportera des millions de dollars par année. Et en plus de cela, ce frère a inventé un appareil pour récupérer le sang, alors qu'il ne pouvait pas le conserver très longtemps. Ceux-ci sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? À la Maison-Blanche, 40% de nos officiers sont pentecôtistes. Amen. Ou ont des antécédents pentecôtistes. Oh! Les nations s'effondrent. Israël se réveille. Et ils peuvent... Ces frères ont découvert une formule qui déshydrate le sang et le conserve indéfiniment. Et ils viennent de bâtir un laboratoire d'$1 million. Oh, combien le Seigneur bénit partout. Voyez ce qui va arriver. Dieu se hâte d'envoyer ses messages du Saint-Esprit dans toutes les parties du monde, car le temps est proche. Nous y sommes allés, pas pour passer des tracts, lesquels sont toujours d'appoint, mais pour apporter le message de la délivrance divine à ces captifs qui sont assis dans les ténèbres. Nous l'aimons. Très bien, nous lirons maintenant l'Écriture très rapidement. Et si c'était la volonté du Seigneur, gardez en mémoire dimanche prochain. Souvenez-vous que ce soir est le soir de la communion, comme je crois qu'il l'a dit, et mercredi soir, c'est la réunion de prière du milieu de semaine. Chacun est invité à toutes ces réunions. Dimanche matin, c'est le lever du soleil entre 5 et 6, et la réunion du dimanche débutera à 9h30. viendra ensuite le service de guérison et le service baptismal. Maintenant, tournons-nous dans le vieux livre béni. Avant de le faire, chantons. Où est sœur Gertie? Elle était ici il y a à peine une minute. Voudriez-vous revenir juste un moment? Et j'essaierai de ne pas vous retenir plus d'une demi-heure, si je le peux, sur la leçon de ce matin. Chantons juste un couplet de ce merveilleux chant d'autrefois. « Ma foi regarde à toi ». Combien le connaissent? Est-ce dans le livre des hymnes ou le connaissons-nous simplement? Voyons voir. Au-dedans de nous, aujourd'hui, nos cœurs débordent de joie à la pensée qu'un jour ce vieux tabernacle terrestre dans lequel nous habitons, cette construction d'argile, telle une cage qui retient l'oiseau, que nos âmes prendront leur envol un de ces jours, comme un oiseau de sa cage dans les bras de notre bien-aimé. Quand nous te verrons venir, cette enveloppe de chair cédera et montera. Notre foi regarde maintenant à toi. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, tous nos péchés et nos transgressions. Je prie que tu t'établiras maintenant sur nous. Viens dans nos cœurs, bénis-nous et prends la parole de Dieu. Et donne-en à chaque cœur, à la mesure de notre besoin aujourd'hui. Et nous te donnerons la louange, car nous le demandons en son nom. Amen. Tournons rapidement aux Hébreux, le 9e chapitre, en commençant au 11e verset. Et ce matin, Dieu voulant, nous parlerons sur la communion par la rédemption. Maintenant, dans Hébreux 9, tous ceux qui ont leur Bible et qui aimeraient faire l'étude avec nous un moment, j'aime la parole. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et dans Job, le 19e chapitre, les 23e, 24e et 25e versets, nous lisons ceci concernant la rédemption. Paul, ici, dans Hébreux, nous dit qui était notre Rédempteur, comment par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. Maintenant, au 23e verset, Job dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mes reins se consument dans mon sein. » Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole, parlant de rédemption et de communion. Et bien souvent nous constatons que nous, les êtres vivants de cette terre, nous devenons tout agités et ne savons plus où aller. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un avec un esprit chrétien qui pourrait regarder au monde d'aujourd'hui et ne pas gémir en son esprit. Je me suis souvent demandé comment les gens d'aujourd'hui pouvaient prendre cette vie autant à la légère. Ce n'est pourtant pas de peu d'importance. C'est ici la raison même pour laquelle on a été placé sur terre. C'est pour adorer et parvenir à Dieu et pour venir en communion avec lui. Et de voir les hommes perdre leur temps comme s'il n'y avait point de Dieu. Oh, l'homme s'est retiré lui-même dans cette sorte de condition. Et en ce jour où nous sommes, je crois que le point le plus essentiel sur lequel je pense un ministre pourrait parler serait de ramener les gens aux principes généraux de l'Évangile, de revenir à la base. Car si vous n'êtes pas construit sur le bon fondement, cela ne profitera de rien. Quelle serait l'utilité de construire sur une fondation qui a déjà été condamnée? Et quelle serait l'utilité, comme je disais, d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement aurait condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essayent de faire par les temps qui courent, en réformant, en essayant de réformer. Nous ouvrirons une église et nous tournerons une page et nous essayerons d'agir un peu différemment de ce que nous faisions auparavant. Vous n'aboutirez à nulle part de cette façon. C'est de la folie même d'essayer, voyez. Vous ne faites que perdre votre temps. Vous dites, bon, je crois que si je cessais de mentir et de voler, toutes ces choses, aussi bonnes qu'elles soient, mais vous êtes néanmoins à 1 000 000 de kilomètres en dehors du chemin battu. Vous devez commencer à partir de la fondation. Vous devez construire une nouvelle base. Non pas rafistoler l'ancienne, mais en construire une toute neuve. Vous devez y revenir et commencer correctement. C'est pourquoi vous voyez tant d'erreurs injustifiées, tant de gens indifférents parmi ceux qui professent la vie chrétienne. Vous savez, ces temps soient peu durs maintenant, mais vous êtes la seule Bible que beaucoup liront jamais, vous les chrétiens. Votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes liront, juste par votre comportement. Donc les chrétiens sont censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Et si Christ est dans le cœur humain, alors il vivra certainement sa propre vie, car Christ est en vous. Et si l'Esprit de Christ est en vous, vous devenez donc une nouvelle créature. Maintenant, j'aime croire que les chrétiens, de partout, si celui qui invoque le Seigneur Jésus vivait exactement la vie chrétienne, eh bien, ce monde se convertirait dans les prochaines 24 heures. Certainement, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre, et le sel ne peut conserver que s'il vient en contact avec cette terre souillée. La terre est en train de se détériorer, de pourrir. Vous savez cela, et le sel doit venir en contact avec la terre, sans quoi elle périra. Il y a quelques semaines à Chicago, j'ai été vraiment touché quand j'ai vu où la parole de Dieu a été prouvée être la vérité. Les hommes et les femmes doivent revenir à la parole. Je passe quasiment tout mon temps en Californie après avoir vu se lever tant de sectes, tant de choses indifférentes, tant de trucs qui n'étaient pas de Dieu. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour critiquer qui que ce soit. Je ne suis ici que pour tenter de prêcher l'Évangile. Mais quand vous voyez tant de choses se lever sous la flatterie et sous des ministères construits sur des personnalités, vous serez alors assis sur des sables mouvants. Un ministère doit être totalement et entièrement construit sur le Seigneur Jésus-Christ, la Bible, en dépit de toute nouveauté qui se présente. Il n'y a pas longtemps, ici, était remis au fils d'un de mes associés, frère Moore, un doctorat en sciences. Et quand cette grande science est venue de Washington pour lui remettre son doctorat, après l'avoir serré dans ses bras, il dit « Fils, à Washington, D.C., sur les derniers développements scientifiques, il y a 124 faits scientifiquement prouvés concernant cette science moderne. Il dit, si je t'y amenais, il te faudrait 2 ans à lire ces livres jour après jour sans t'arrêter. Il dit, quand tu aurais passé au travers des 124 livres, il dit, la chose qu'il te faudrait alors faire serait d'oublier tout ce que tu as lu parce qu'ils auront découvert autre chose qui surpassera ceci. Quand il lui dit cela, j'ai pensé, mais gloire à Dieu, je connais un livre qui a traversé des milliers d'années. Il ne changera jamais et rien non plus n'y sera ajouté. C'est le livre des livres et tous les autres livres tournent en rond, ne sachant pas où ils sont. Et s'ils veulent des faits, ils doivent revenir à cette Bible pour les obtenir. C'est le livre de Dieu, le seul livre. Que Dieu soit à jamais loué pour ce grand et merveilleux livre. Et en celui-là est contenue la volonté de Dieu, la promesse de Dieu. C'est le livre de tous les livres. Tous les autres livres échouent, tous les autres livres disparaissent, leur savoir est dépassé, mais ce livre-ci contient la vérité éternelle de Dieu. Pour cette raison, vous pouvez dire « Amen » à ce que dit la Bible. Quand j'allais à la petite école, on m'enseignait que c'était le reflet du soleil sur les étoiles qui les faisait briller. Ils ont changé cela maintenant. Ça ne peut plus les faire briller. Je me trouvais au planétarium du mont Palomar de Los Angeles l'autre jour, sur la colline, au plus grand planétarium du monde. Je le visitais avec le guide. Il dit, c'est ce qu'ils croyaient il n'y a pas longtemps, mais ils ont découvert que chaque étoile émet sa propre lumière. C'est parti. Les rayons du soleil ne pourraient voyager aussi loin entre chaque étoile. Ils m'ont jadis enseigné que le monde tournait autour du soleil et que le soleil restait parfaitement immobile. Vous les gens de mon âge, c'est ainsi qu'on vous a enseigné. Ils ont changé cela depuis lors. Le soleil se déplace, voyez. Ils ne savent tout simplement plus. C'est bien cela. Et voici le seul livre qui sait. Maintenant, les hypothèses qu'ils ont avancées depuis 6000 ans, Josué commanda au soleil de ne plus bouger, comme le dit la Bible, et il s'arrêta. Voyez, ça va tout revenir à ce livre. Tout revient à la Bible. Il n'y a pas longtemps, la science ridiculisa un homme quand, dans la Bible dit « Votre corps est plein de lumière ». La science a dit « Votre corps plein de lumière ? » A-t-on jamais entendu pareille chose ? C'est impossible, il n'y a pas de lumière dans votre corps. Mais ils ont fait la découverte du contraire. Ils ont inventé le rayon X et le rayon X mesure votre propre quantité de lumière. Ils n'utilisent aucune autre lumière. Votre propre lumière produit le rayon X. Le rayon X n'a pas de lumière propre. C'est votre lumière qui prend la photo, la lumière qui est dans votre corps. Donc Dieu avait raison après tout. Vous savez, et puis ils ont dit, Dieu a fait une erreur quand il a dit qu'un homme pense avec son cœur. C'est impensable. Il n'y a pas de fonction mentale dans le cœur d'un homme par lesquelles il peut penser. C'est par son esprit qu'il pense. Mais il n'y a pas plus de 2 mois, ils ont découvert que Dieu avait raison. Ils ont été explorer le cœur humain et ils y ont découvert un tout petit compartiment qui n'était pas même environné d'une cellule de sang ou rien. On ne retrouve pas cela dans le cœur animal ou le cœur d'un oiseau ou dans tout autre cœur à part le cœur humain. Un tout petit emplacement qui est appelé l'habitacle de l'âme. Donc Dieu dit vrai, c'est du cœur que l'homme pense. Un homme peut avoir une foi intellectuelle, et c'est là où la plupart des gens en arrivent aujourd'hui, de ceux qui s'appellent chrétiens. La raison pour laquelle il se fait tant d'histoires sous le nom du christianisme, comme vous pouvez le constater, c'est à cause de cette foi intellectuelle. Que voulez-vous dire par foi intellectuelle, frère? Voici, l'homme croit à salut, et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. Or, je pourrais prêcher la parole, vous pourriez l'accepter et dire, c'est tout vrai. Oui, j'y crois. Bon, maintenant, si c'est le plus loin que ça peut aller, alors vous n'irez jamais très loin avec Dieu. La foi intellectuelle. C'est pourquoi les gens n'obtiennent pas la guérison. C'est qu'ils n'ont que le point de vue intellectuel de la guérison, que ce que conçoit leur pensée. La pensée, elle, va raisonner. La pensée dira, ça n'est pas possible, je ne vais pas mieux. Mon sens de la vue dit, mon bras n'est pas plus replacé qu'il ne l'était hier. Mon sens du toucher dit, je ne sens aucune différence d'avec hier. Le raisonnement, la théologie mentale raisonnera tout en disant, attends une minute là, je crois que c'est de la folie. Voyez, vous raisonnez, cette foi intellectuelle fera ainsi. Mais une fois que cette foi descend dans ce compartiment ici, elle ne questionnera jamais ce qui est en haut ici, en aucun cas. Cela devient un fait absolu. Elle s'accordera avec toute parole divine de Dieu. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à l'endroit où ils devraient être. Cela devient une conception mentale de Dieu. Quand cette conception mentale, quand vous croyez en lui par une foi intellectuelle, cela n'accomplira rien. Cela se doit d'être une expérience de nouvelle naissance, où votre foi descend dans ce compartiment-ci. Et en dépit des apparences, la foi dit que c'est ainsi de toute façon. Voyez ? Or l'homme a une fois été créé, même dans la condition dénaturée dans laquelle on est aujourd'hui. L'homme a été créé pour servir Dieu. C'est ce qu'il doit sur la terre. Écoutez ce grand homme, le plus sage des hommes, Salomon et tous les autres. Dans l'Ecclésiaste, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. C'est là ce que doit tout homme. Nous nous demandons pourquoi nous sommes ici, les hommes et les femmes, pourquoi nous portons des vêtements et avons à lutter, tandis qu'il n'en est pas ainsi pour les animaux. Dieu nourrit ses petits oiseaux et prend soin de tout le reste, mais nous, nous devons nous débrouiller. C'est que le péché nous a séparés de notre Créateur. C'est ce qui a fait cela. Vous ne verrez pas l'animal s'améliorer, il ne le peut pas. S'il parvient à une meilleure condition, ça devra venir d'une source extérieure. Il ne se construit pas sur une plus belle niche, il ne se fait pas frire ses plats, il les mange habituellement crus, voyez. Il n'y a rien en lui qui lui donnerait une âme. L'animal n'a pas d'âme, mais l'homme a une âme. Et par conséquent, cette âme est une partie de Dieu. Malgré sa condition déchue, l'homme n'en demeure pas moins la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Et si vous l'amenez en contact avec celui qui l'a créé, il devient un super-homme. Presque, parce qu'il est un fils de Dieu. Il fait la connaissance de son Créateur, du Créateur de toutes choses, et ensuite, quand cet homme-là, en relation avec son Créateur, devient une partie de son Créateur, revient en communion avec son Créateur, toute parole divine devient une réalité vivante pour lui, et il y croit. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus croire en la guérison divine. Ils n'ont rien en eux pour croire, jusqu'à ce que Dieu vienne dans le cœur humain. Un homme ne vaut pas beaucoup plus qu'une brute. Sa raison, il réfléchira à fond sur tout. Comment cela se peut-il? Et il va tout l'expliquer. Mais si jamais Dieu prend sa position dans le cœur humain, tous les raisonnements s'effacent. Dieu passe en premier. Amen. Au commencement, quand Dieu créa l'homme pour l'adorer et vivre, Dieu qui prenait soin de lui le nourrissait. L'homme avait une communion parfaite avec Dieu. Tout était parfait. Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève. Quel beau tableau! Ils ne se faisaient pas de mal. Rien ne pouvait leur nuire. La maladie ne pouvait pas les atteindre. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était d'être âgé. Ils ne savaient pas ce que c'était d'être blessé. C'était impossible qu'ils le soient. Ils étaient dans la présence des puissances omnipotentes de Dieu, lesquelles les tenaient en contrôle et par son esprit, il les guidait. Rien ne pouvait leur nuire. S'il vous arrivait de penser, je crois que si ce petit groupe de croyants ce matin pouvait à chaque instant mettre de côté toute pensée, en venir au fait, à savoir que le grand Jéhovah Dieu qui vous a créé au commencement est en position, en place aujourd'hui, ici, dans ce tabernacle, au cœur de chaque croyant. Vous croyez cela? Maintenant, au commencement, quand Dieu descendait au crépuscule et parlait à Adam et Ève dans la fraîcheur du soir, et que sa voix majestueuse leur murmurait, ils étaient en communion, ils s'aimaient l'un l'autre. Comment l'esprit se mouvait à travers les buissons, les lions montaient, les tigres, tous les autres, et ils adoraient le Seigneur. L'homme était conscient à tout instant que sa présence était avec lui. Maintenant, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Prêtez l'oreille à ceci, à cette remarque. Je vais simplement être un peu différent ce matin. Je vais me permettre de parler un peu de quelques théologies à moi, de quelques-unes de mes opinions personnelles, de mes propres conceptions de l'Écriture, des choses que je n'ai jamais dites auparavant dans cette Église ou ailleurs. Mais je sens que ce matin, ce pourrait être profitable. Tout homme, en son fort intérieur, a des conceptions, et ainsi de suite, qu'il croit et garde solennellement en son cœur, des secrets entre lui et Dieu, que personne ne connaît si ce n'est lui et Dieu seul. Vous savez cela. Chacun d'entre vous croyants savait cela. Le croyant seul est son Créateur. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y avait un tas de bâtiments, où il y avait un tas de maisons faites de mortier, tapissées de papier tenture, aux murs peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel aurait à vivre dans une maison littérale. Je crois quand Jésus en parla dans Jean 14, quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », qu'il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose et disent « Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui attend ». Le voyez-vous? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Donc le lieu dans lequel on va, en attendant de revenir, n'est pas un lieu fait de briques et de mortier d'argile, ou de pierres précieuses et de rubis. C'est un lieu de condition, une dimension où nous vivons, et de laquelle on sort pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, un lieu d'habitation. Jésus a dit, « Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Et ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Et il est allé préparer une place pour chaque croyant, pour qu'au moment même où nous sortons de ces régions mortelles, nous ne sortions pas dans un mythe ou dans un esprit surnaturel, mais que nous entrions dans un tabernacle, un lieu d'habitation. Et ce pourrait être directement dans ce bâtiment ce matin, dans un lieu où aucune onde de radio ou autre ne pourrait toucher. C'est là, préparé uniquement par Dieu seul. Écoutez, Moïse était décédé depuis 800 ans. Élie avait été enlevé depuis à peu près 600 ou 700 ans, et on les retrouve sur le mont de la Transfiguration, tous les deux, dans leurs apparences mortelles, parlant à Jésus juste avant qu'il n'aille au calvaire. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce que j'essaye de dire, c'est que nous regardons à quelque chose de mythique, de lointain, d'inaccessible à 100 millions d'années. J'ai eu une révélation l'autre jour, alors que j'étais à l'observatoire du Mont Palomar, regardant au temps, à l'espace, jusqu'à Mars et au dernier continent, et ainsi de suite, et la lumière voyageant à tant de milliers de kilomètres à la seconde. Si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudrait des milliards de fois, des milliards de fois, des milliards d'années pour y parvenir. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver jusqu'ici. Je ne peux croire qu'il y ait une maison si loin là-bas, mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est présente juste ici, maintenant. C'est le lieu où les êtres mortels, quand nous cessons d'être mortels ici, nous entrons dans l'immortalité là-bas, dans un lieu. Aussi, je crois que c'est là où se trouve Jésus aujourd'hui, le Seigneur Jésus ressuscité, pas très loin là-bas, quelque part, à 1,5 million de kilomètres, mais directement ici, présent avec nous, maintenant. Dans la quatrième dimension, les gens peuvent prouver qu'à travers cette pièce, comme je vous parle, passe une onde radiophonique, des messages radiophoniques, passant directement à travers ce bâtiment, comme je vous parle, parviennent des images télévisées, mais c'est trop rapide pour l'œil. Maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension et vous parviendrez en un lieu tout aussi réel qu'il y a des images télévisées dans cette pièce-ci ce matin. Là est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils ressuscité de Dieu qui se tient ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez le voir, c'est que notre cœur n'a pas été syntonisé sur cette fréquence. Et la raison qui nous empêche de voir les images télédiffusées, c'est que nos corps ne sont pas conçus pour capter des diffusions envoyées par moyens mécaniques. Mais quand notre corps se met en syntonisation avec Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour confirmer la présence du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que toute sa puissance et son omnipotence. Il est ressuscité des morts, il vit avec nous aujourd'hui, et il veut communier avec son peuple à nouveau. Sa grande majesté, sa gloire est en train de se déployer et il désire communier à nouveau avec son peuple comme il le faisait au jardin d'Éden. Je sais que j'ai tourné autour de cela un long moment, mais je voulais que vous captiez cette image pour que vous ne l'oubliez jamais. Où que vous soyez à la piscine ou au casino, il y a quelqu'un d'invisible qui vous guette. Si vous supportez des persécutions pour le nom du Seigneur, quoi que ce soit, prenez qui vous voudrez et observez. L'homme récoltera ce qu'il a semé à tout coup. S'il agit mal, il ne s'en tirera jamais comme cela. S'il agit correctement, il viendra dans la gloire avec cela. Vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté. C'est Dieu, il est ici, il connaît les profondeurs même de votre cœur. Il sait qui vous êtes et tout ce que vous avez fait. Parfois dans les réunions, j'observe comment ces visions deviennent matérielles. Je me disais, « Oh Dieu, comment cela peut-il se faire ?» Quand, il y a à peine une minute, se tenait ici un homme avec ses bras croisés, me regardant, et j'ai entendu sa voix me parler et me dire des choses qui allaient arriver et qui n'ont jamais manqué d'arriver. Et pourtant, je ne le vois plus. Et je sais qu'il y a un pays au-delà de la rivière. Il y a une région quelque part là-bas que les personnes glorieuses que sont les grands anges de Dieu et son être communient à nouveau. La communion. Au commencement, Dieu se mouvait à la surface de la terre, et l'âme d'Adam et Ève était sans tache. Ils entendaient le mugissement et voyaient cette belle lumière là-bas, brillante à travers les buissons. C'était Jéhovah qui leur parlait. Et puis le péché les sépara. Ils se mirent à pécher. Dieu n'avait qu'un seul moyen pour qu'un pécheur atteigne un Dieu saint. Et ce n'était pas par sa propre justice, ce n'était pas en raccommodant une vieille chose, c'était par la mort et la résurrection. C'était le seul moyen. Dieu condamna l'homme dans le jardin d'Éden parce qu'il avait péché et son corps entier a été imprégné du péché. Et vous ne pourrez jamais tourner une nouvelle page. Écoutez, je me soucie peu de votre grande fréquence à l'église et des bonnes choses que vous faites. Tout ça, c'est très bien. Vous achetez du charbon à la veuve quand elle a froid. Vous lui achetez de la nourriture quand elle a faim. vous pourvoyez à ce que les enfants ne manquent de rien. C'est bien. Il n'y a rien à redire à ce sujet. Mais mon frère, ma sœur, vous serez un être misérable jusqu'à ce que ce vieux fondement soit tout à fait éliminé et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu, pour communier. Vous le voyez ? Ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, toutes les petites choses s'estompent. Oh, ça semble de si peu d'importance, si puéril. C'est pourquoi nous avons ces problèmes. C'est pourquoi l'on voit des prétendus chrétiens vivre tout juste. Aujourd'hui, ils vont très bien, et le lendemain, ils ne vont plus du tout, et le surlendemain, bon, c'est qu'ils n'ont jamais démoli le vieux fondement. Ils n'ont jamais construit sur Christ. Maintenant, remarquez-le dans sa gloire antérieure. Après qu'il eut péché, Dieu se sentit si désolé pour le pauvre homme, les voyant, lui et Ève, s'éloigner sans... En sortant de la communion, il leur faudrait se débrouiller tout seul. Que pourraient-ils faire? Ils avaient un père bien aimé qui aurait bien pris soin d'eux, mais voilà que par la désobéissance, ils coupèrent toute communion, plus de communion. Ils devaient s'occuper d'eux-mêmes, ils devaient cultiver la terre et gagner leur pain à la sueur de leur front. Ils devaient connaître la maladie et mourir, ainsi que toutes sortes d'ennuis, de tristesse et de désappointement. Pourquoi? La communion avait été rompue. Plus de communion avec Dieu. C'était devenu impossible. C'est là où en sont les hommes de nos jours. C'est pourquoi on les voit travailler les dimanches. C'est pourquoi on les voit aller à la pêche et chasser les dimanches. C'est pourquoi on les voit aller aux courses de chevaux ou d'automobiles. C'est pourquoi on les voit plonger dans les piscines et ainsi de suite. Il y a quelque chose dans l'homme qui cherche quelque chose et il ne peut le trouver. Et ce monde-ci ne peut le produire. Et l'Église ne peut le produire sur la base d'une théologie mentale. Non, ils ne le peuvent pas. L'homme doit démolir l'ancien fondement. L'homme doit être régénéré et né de nouveau et revenir à Dieu. Non pas tourner de nouvelles pages. Ça ne le fera pas. C'est peut-être bon. Je ne m'oppose pas à cela, aux bonnes œuvres que vous faites. Mais ça ne le fera pas. De se joindre à l'Église ne le fera pas. D'amener les enfants à l'Église ne le fera pas. Jusqu'à ce que ça devienne une affaire individuel avec vous, jusqu'à ce que vous reveniez à cette communion. Ensuite, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, car notre esprit rend témoignage avec son esprit que nous sommes fils et filles de Dieu. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà. Oh, quand j'y songe, combien mineures sont ces autres petites choses. Combien mineures m'apparaissent-elles? Mon épouse avait l'habitude de chanter ce chant. Les traces de pas de l'étranger ont été effacées sur les sables de la rive de la Galilée. La voix qui réfréna les flots enragés ne se fera désormais plus entendre en Judée. Mais je suivrai à chaque jour avec joie le sentier de ce Galiléen solitaire et les labeurs de la route ne me sembleront plus rien quand j'atteindrai la fin du chemin. Il y a quelque chose au-delà du voile là-bas qui attire le chrétien. Il ne peut l'expliquer, il ne le comprend pas lui-même, mais il y a quelque chose dans cette communion qu'il a avec Christ. Retranchez-le de là et il devient un vagabond. C'est ce qui fait que le peuple américain d'aujourd'hui, pauvre et errant qu'il est, des pauvres types dans la rue, des jeunes dames, des jeunes hommes, n'ont pas de communion du tout. Ils vont à l'Église et ils ne peuvent la trouver à l'intérieur de ses murs parce que l'Église est tellement formaliste et rituelle. Ils ne la trouveront pas là. Ils se rendent à la piscine et ils ne peuvent la trouver là. Ils se rendront sur les plages de plaisance, ils ne pourront la trouver là. Satan se saisit d'eux et les dépouille de leurs vêtements et de tout. Ils vivent d'adultère de toutes sortes. Les pauvres types monteront à une réunion quelque part et diront « Oh frère, je pense à me suicider ». Ils ne peuvent la trouver, non. Le péché sépare un homme de la communion. Maintenant, mes amis, il n'y a qu'un seul chemin pour retourner. J'en ai vu plusieurs qui pouvaient danser dans l'esprit, qui pouvaient parler en langue, et qui pouvaient courir de long en large du bâtiment et bien d'autres choses, et qui n'avaient pas pour autant de communion, tout aussi misérables qu'ils pouvaient l'être parce qu'ils avaient bâti sur le mauvais fondement. C'est vrai, nous devons avoir la bonne chose. la chose première en premier, sans quoi votre départ au complet est faux. Vous devez revenir au fondement. Maintenant, allons découvrir ce qu'est le fondement. Après quoi, si nous pouvons trouver le fondement vraiment à partir de la parole de Dieu, il n'y aura plus de questions à se poser. Surveillez simplement ce qui arrive. Maintenant, écoutez-moi, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y a qu'un fondement pour la communion. Il n'est seulement qu'une seule occasion et pour une seule raison où Dieu ait jamais étendu le tapis de bienvenue pour la race déchue d'Adam. Qu'une seule. C'était dans le jardin d'Éden, quand il l'étendit par le moyen du sang versé. Je crois dans le sang, pas d'en parler, je veux dire d'adorer en cela. Quand Dieu fit une réconciliation pour Adam et Ève, il la fit par l'effusion du sang d'un substitut innocent, par l'effusion du sang. Oh, aujourd'hui, les autres églises formalistes se sont éloignées de cela. Elles ne le prêchent plus du tout, et ils parlent de politique et de tout autre truc du monde. Ce sont là les églises formalistes. Et l'église du plein évangile a dévié dans tant de ismes, de petites choses, et ils doivent faire ceci, et des petites évidences, et tout, à ce point qu'ils se sont éloignés de cela. Et le monde entier est devenu une agglomération d'absurdités, c'est vrai. Dans les conditions, c'est un état lamentable à voir. À moins que Dieu ne fasse rapidement quelque chose, toute l'affaire est perdue. Ô Dieu, envoie-nous des prédicateurs aujourd'hui, qui se tiendront sur le fondement, qui feront cet appel aux pécheurs. Le chemin du retour est au travers du sang versé du Seigneur Jésus. Le seul chemin, pas d'en discuter, mais je veux dire d'y entrer. Dieu immola l'agneau, couvrit Adam et Ève de sa peau et versa le sang, un moyen de revenir à la communion avec Dieu. Adam n'a pu revenir à Dieu que par le sang versé. Qu'un parti avec la première idée d'Adam, Adam se fit une religion en se couvrant de feuilles d'olivier sur lui et sur Ève. Mais ils réalisèrent que ce n'était pas le moyen approprié de Dieu. Et pour cette raison, ils ne purent se tenir en sa présence. Et de nos jours, nous nous croyons encore capables par nous-mêmes. Nous utilisons toutes les différentes idées et les vaines philosophies des hommes. Et ça ne mène absolument à nulle part. Jésus a dit, les hommes m'adorent, enseignant pour doctrine leur tradition d'homme. Ils adorent en vain. Vous pourriez adorer le Seigneur et toutefois ne pas adorer de la bonne façon. Ça ne vous sera pas compté comme réconciliation. Maintenant, Église, je voudrais que vous réfléchissiez là-dessus. Ne laissez pas ces choses passer à côté et dire, frère Bill est venu et il a dit ceci et cela. Prenez ces choses à cœur, méditez-les. Pourquoi vont-nous nos hauts et nos bas? Pourquoi les choses vont-elles de la façon qu'elles vont? C'est qu'il nous faut premièrement revenir au fondement. Adam pensa que si seulement il couvrait sa nudité, qu'assurément tout irait bien. C'est aussi comme cela que les hommes pensent aujourd'hui. J'irai joindre une église. Peut-être y en a-t-il beaucoup qui disent, je veux être comme l'autre, donc je crois, je peux taper des mains jusqu'à crier. D'autres disent, je croirais si je pouvais juste parler en langue un petit peu, après quoi je serais rassuré. Et vous pouvez entrer dans une confusion de voix, ce qui ne serait pas du parler en langue. Vous pourriez parler véritablement en langue et par ailleurs ne pas encore être en ordre. Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous dites, si j'allais imposer les mains aux malades et qu'ils recouvriraient la santé, je serais rassuré. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé, prêché en ton nom? N'ai-je pas en ton nom accompli beaucoup d'œuvres puissantes? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. De venir par un autre moyen, que cela descende profondément maintenant, de venir par un autre moyen que celui pourvu par Dieu, le sang, Adam surgit avec une couverture aussi bonne, aussi fondamentale qu'il lui était possible d'être, mais c'était la mauvaise façon. Et aujourd'hui, les gens ont des églises qu'ils joignent, y apposent leur nom, se réforment, vont prendre la communion et font différentes choses, tout aussi religieusement qu'il se peut faire. Mais ce n'est pas encore la façon. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Sur la base du sang versé, donc, s'ouvrait pour Adam et Ève un chemin pour rentrer au bercail, pour communier avec Dieu. Et il a été emprunté à travers les âges, il a été emprunté à travers chaque âge. Job, le plus ancien livre de la Bible. Pour revenir à notre lecture de l'Écriture, Job l'a emprunté. Le livre de Job a été écrit avant que la Genèse soit écrite. Le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible. Et bien sûr, Moïse a écrit la Genèse plusieurs centaines d'années plus tard. Mais pour Job, le seul moyen qu'il avait pour venir communier à Dieu était à travers le sang versé de l'agneau et un holocauste. Dieu l'avait béni et il devint un grand homme. Il avait des richesses en abondance, des chameaux, des bœufs, des moutons. Oh, quel grand homme il était! Et tous s'inclinaient devant lui et disaient, « Job, oh, tu es un exemple !» Ensuite, Satan, l'accusateur, monta et dit devant Dieu, et Dieu dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme droit, un homme intègre. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. » Pensez donc, personne comme lui sur toute la terre. Il répliqua, « C'est sûr, tu l'as entouré de tous côtés. » Cet homme possède tout, une bonne santé, de la vigueur, beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Pour sûr, il peut te servir. Mais livre-le-moi quelques minutes. Il dit, je l'aurai, je le ferai te maudire en face. Maintenant, remarquez, oh, comme j'aime ceci, Dieu connaissant le cœur. Job n'avait qu'un seul moyen, c'était par la communion, par l'effusion du sang. Il avait parlé à Dieu, il savait qu'il existait. Dieu avait confiance en Job parce qu'il avait eu cette communion avec Job. Oh Dieu, puisse le tabernacle Branham voir cela aujourd'hui. Le seul moyen qui permette à Dieu d'avoir confiance en vous, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose ou que votre foi accomplit quelque chose, mais c'est quand vous êtes en communion. Amen. La communion. Un grand réveil baptiste est en cours en ce moment. J'ai entendu un prédicateur baptiste dire, il y aura plus de membres baptistes à Churchill Downs qu'il y en aura au réveil baptiste. C'est la vérité. Et pourquoi? Parce que l'église baptiste a laissé tomber. Ils deviennent baptistes en devenant membres. Ils deviennent baptistes en joignant l'église. Ils deviennent baptistes en étant baptisés d'eau. Mais s'ils étaient en communion avec leur créateur, la présence de Dieu, de parler et communier avec lui serait d'un trésor beaucoup plus grand que les choses du monde. Il ne s'inquiéterait plus que ceux-ci se retrouvent dans de tels endroits. Vous n'avez plus à vous en inquiéter si jamais l'homme entre en communion. Vous pourriez me parler de Frère Neville comme étant un homme bien. Quel brave homme il est! Si c'est ce que j'entends dire de lui, c'est très bien, je le croirais certainement. Mais je ne le saurais jamais personnellement jusqu'à ce que je fraternise un peu avec lui, jusqu'à ce que nous nous asseyions ensemble à une table, et que par-dessus cette table, nous parlions ouvertement, et que nos esprits se fondent ensemble. Ensuite, j'aurai une idée de quoi il est constitué. Vous avez peut-être entendu parler de Jésus par le moyen de la prédication. Vous avez peut-être entendu dire de votre mère qu'il est merveilleux. Vous avez peut-être entendu un prédicateur dire qu'il guérit les malades. Et il se pourrait qu'il vous ait déjà guéri par sa puissance. Mais vous ne saurez jamais ce qu'il est avant de vous être une fois abandonné à lui, dans la communion, et que votre esprit et son esprit se soient fusionnés ensemble, témoignant d'un commun accord que vous êtes fils et filles de Dieu. C'est alors que les choses anciennes passent. Vous n'aurez plus à vous inquiéter du monde, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont communion avec lui à travers le sang. La communion. Or, Dieu avait confiance en Job. Il avait communié avec lui et il savait que Job pourrait mettre sa foi en lui. Aussi dit-il, « Très bien, Satan, vas-y, il est entre tes mains, mais ne lui ôte pas la vie. Fais tout ce que tu voudras, sauf cela. » Alors Satan, excellent à son poste, se retira et il fit périr tous les enfants de Job. Là, j'aimerais vous faire remarquer une petite chose. Je crois que Job a dû en avoir un pressentiment. Avez-vous remarqué que lorsque ses enfants, lorsqu'ils étaient tous réunis ce jour-là, ils avaient un grand banquet? C'est là où vous tombez habituellement dans l'embarras, allant dans ces grandes soirées. Le bureau offrira un grand gueuleton. Vous participerez à la veille de Noël, comme Billy Graham l'a relaté dans le journal l'autre jour. Et vous vous enivrez pour la première fois. Vous devez donner de l'air à votre âme. Vous avez été enfermé si longtemps, donc vous devez sortir un peu et laisser s'évader votre âme. Vous devez sortir un peu et avoir du bon temps pour vous relaxer en quelque sorte, vous donner des vacances. Frère, cela montre que vous n'avez jamais été en communion avec Christ. Si un homme ou une femme a déjà goûté à la communion divine avec Christ, je le préférerais à toutes les vacances et les choses du monde. Certainement. Si vous voulez me faire relaxer, laissez-moi sentir Christ. Laissez-moi lui parler un peu et mes fardeaux seront enlevés. Ils ne seront plus. Non, je préférerais lui parler à tout ce que je connais du monde. Avoir communion avec lui. Donc Dieu savait que Job avait goûté. David a dit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Goûtez-y une fois seulement et voyez s'il n'est pas bon. Il goûte comme le miel du rocher. Maintenant la grande communion. Donc Satan descendit. Mais avant qu'il ne descende, Job dit, mes enfants sont allés festoyer ce soir. Je suis à me demander si on ne pourrait pas avoir plus de pères et de mères comme Job, des parents. Il dit, mes enfants sont sortis festoyer ce soir. Ils visitent des voisins mondains. Peut-être, il se pourrait qu'ils pêchent. Oh ! Si les pères et les mères agissaient plus de la sorte, il n'y aurait pas de délinquants juvéniles. Les jeunes ne courraient pas les rues comme ils le font, voyez ? Mais si d'aventure ils commettaient le péché, je vais offrir une offrande pour chacun d'eux. Que si quelque chose arrive, ils pourront revenir à la maison par le moyen du sang versé. Oh ! Je l'offrirai pour eux. Aussi, celui-ci est pour Jean, je le sacrifierai au Dieu pour Jean. S'il lui arrivait de dévier du chemin une fois là-bas, le Saint-Esprit n'est pas encore venu pour le guider. Aussi, s'il dévie du chemin, Seigneur, je lui tracerai un chemin ici. Oh, Marie, elle est là-bas ce soir. Aussi, Seigneur, si elle dévie, oh, je l'ai bien élevée, mais si elle dévie, je lui tracerai un chemin par le moyen du sang répandu pour qu'elle revienne. Ô Dieu, accorde-nous plus de ces mères, priant ainsi pour leurs enfants la nuit venue. C'est la colonne vertébrale de toute nation. Très bien, je leur tracerai un chemin. Bref, après un temps, la colère du diable s'abattit sur eux et les tue à tous. Ainsi que tous ses moutons, tout son bétail, tout ce qu'il possédait. Même sa santé en prit un coup. Et il se retrouva plein d'ulcères, assis sur un tas de cendres, un tesson en main pour gratter ses ulcères. Il avait tout perdu. Oh, voici, regardez, qu'en aurait-il été s'il n'avait eu qu'une foi intellectuelle? Ses raisonnements auraient dit, Bildad et les autres descendirent, ils ont commencé à lui dire, regarde-nous, Job, je voudrais que tu réfléchisses à ceci maintenant, regarde, cela démontre que tu es dans l'erreur, toute ta théologie est fausse, Job, parce que comme tu vois, Dieu t'a tourné le dos, tu n'as pas joint la bonne église, tu vois, Job, regarde, tout est allé de travers. Mais, si c'est tout ce qu'avait possédé Job, si tout son désir avait porté sur cela seulement, sa propre pensée lui aurait dit, aurait raisonné cela et dit, je crois qu'ils ont raison, je crois qu'ils ont raison. Mais, amen, Job avait communié. Il a dit, non, je ne fais pas fausse route, car je base ma foi sur cette unique chose, j'ai parlé avec lui. Et je suis venu par le moyen qu'il a pourvu. Je suis venu par le moyen du sang versé. Et c'est ce qu'il exige. Et je lui ai parlé et mon âme demeure en lui. Vous y voilà, la communion. Il n'y a rien de tel. Laissez tomber votre adoration formaliste et entrez en communion avec lui une fois. Cessez cet aller à l'église de dimanche et se faire une petite prière avant d'aller au lit. Et sortez réellement et entrez en communion. Oh, vous vous hâterez de faire la vaisselle pour revenir communier à nouveau, lire la parole, parler avec lui. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, amis chrétiens. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il me faut. C'est ce dont le monde entier a besoin, de revenir communier, communier avec lui, le connaître. Paul a dit, la communion de ses souffrances, supportant les persécutions avec lui. Vous savez, Paul était cet homme qui avait souffert avec Christ. Et quand cet esclave là-bas s'est enfui, j'aime cela, Paul avait tant supporté de persécutions, tant de choses de Christ, que lorsque ce fugitif se sauva, Paul dit, écrivant à son maître, après la conversion de l'esclave, il dit, ne le considère plus comme un esclave. Il dit, traite-le comme un frère. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je te paierai quand je viendrai. » Voyez, il avait tellement été en communion avec Christ, dans ses souffrances, qu'il savait ce que c'était qu'être en exil. Savez-vous ce que c'est qu'être en exil? Il savait ce que c'était de communier à ses souffrances. C'est pourquoi il savait sympathiser avec les autres. C'est la raison pour laquelle Christ est devenu un humain, pour pouvoir connaître les douleurs de la maladie, pour pouvoir connaître les douleurs du désappointement, pour pouvoir avoir avec nous une communion, car il a été participant de la vie comme nous, vie de désappointement, de douleur et de maladie, car il a porté nos maladies et nos peines en son propre corps. Une communion. Remarquez maintenant rapidement, nous en arrivons à la conclusion de cet entretien sur la communion. Job avait communié, et quel merveilleux temps c'était. Satan ne pouvait pas ébranler Job de cette communion. Donc vint sa femme, le dernier recours. Satan dit, je l'aurai par sa femme, et je la ferai. Les enfants ne pouvaient pas le faire, ni la perte de tous ses biens, ni la perte de sa santé. Donc ce qui est le plus près d'un homme en ce monde, ou qui devrait l'être, c'est sa femme. Donc il prit sa femme et il descendit là et elle dit, Job, regarde à ce que tu as l'air. Elle dit, il semble que quelques d'entre eux aient raison, non? Tu ne dois pas appartenir à la bonne église. Tu dois être tout embrouillé, Job. Tu as peut-être fait une erreur. Pendant qu'on y est, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et meurs? Regarde-toi, on pourrait joindre une meilleure église. Et elle dit, tu parles comme une femme insensée. Il savait où il se tenait, pas par une théologie mentale, pas par une foi intellectuelle, mais par une communion avec Christ à travers l'Holocauste, le sang. Il avait adoré Dieu. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Il ajouta, le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté, béni soit le nom du Seigneur. Vous y voilà, c'est celui qui adore dans la communion, c'est l'homme qui lui a réellement parlé. Ensuite, vous savez de quoi vous parlez. Si vous substituez cela à quelque chose d'autre, et ces autres choses sont bien, toutes ces autres choses sont bien, je n'ai rien contre elles. Mais ce n'est toutefois pas la base. Ne construisez pas seulement sur cela, sur cette foi intellectuelle. Revenez à cette base-ci, ayez-la ici, et puis adorez-le, parlez-lui, communiez avec lui. Et ensuite, ériger ces autres choses, amener ces autres choses sur ce fondement-là. Mais vous essayez d'amener ces vérités fondamentales sur un fondement qui n'a rien à y voir. Le frère Wood ici, qui est quelque part dans la salle, il est entrepreneur. Eh bien, à quoi lui servirait-il de prendre une vieille bâtisse toute rongée par les vers et qui aurait été dévastée par les termites et qui serait pourrie jusque dans sa fondation ? Et aller ensuite se décrocher le meilleur bois de construction, un bon bois de séquoia fraîchement séché pour le clouer sur la maison, et puis le peindre d'une peinture recommandée par les plus grands fabricants de peinture au monde, et dire, regarde ici, prédicateur, je peux te prouver que c'est du vrai et authentique séquoia. Je dirais, oui, frère Wood, c'est juste. Regarde, voici le sceau d'approbation, que ceci est la meilleure peinture qui pourrait être appliquée sur une maison. Tu as raison, frère Wood. Mais ta fondation n'est pas bonne, ça devra s'écrouler. C'est ce qui en est la cause. Lire l'Écriture est bien, prêcher l'Évangile est bien, mais votre fondement n'est pas bon. Éliminez votre conception mentale des choses et recevez Dieu dans votre cœur par l'effusion du sang. Et puis construisez à partir de là. Votre bois est approprié si vous le posez sur une bonne fondation. Vous y voilà. Ne m'en voulez pas maintenant. Cela peut trancher un peu, mais c'est la vérité et c'est ce qui vous aide. Maintenant, remarquez, retournez au bon fondement, à la communion. Maintenant, comment allons-nous entrer en communion, frère Branham? Qu'est-ce qui nous amène à la communion? L'effusion du sang. C'était en Éden. C'était ici avec Job après l'Éden. Rapportons cela à un exemple ou deux de plus, et puis nous nous dépêcherons de finir. Écoutez attentivement. Voici comment on entre dans cette communion. Comment l'obtenez-vous, frère Branham? Comment entrez-vous jamais dans cette communion? À travers l'effusion du sang. Pas par quelque expérience, non, monsieur. Pas par quelque émotion mentale, non, monsieur. Pas par quelque exercice physique, non, monsieur. Ces choses sont très bien, autant qu'elles peuvent l'être. Mais ce n'est toutefois pas la vérité fondamentale. Laissez ces valeurs de ce côté jusqu'à ce que vous reveniez ici correctement. Revenez ici jusqu'à ce que vous en arriviez à l'autel et que toutes les choses anciennes soient passées, qu'une paix qui surpasse toute intelligence entre, au point où vous ne pouvez plus haïr, vous ne pouvez plus envier, au point où quelque chose vous fait aimer le pire ennemi que vous ayez jamais eu. Pas une imagination, mais quelque chose qui vous gardera de parler du voisin qui vous persécute, quelque chose qui vous fera aimer ceux qui vous maltraitent. Cela vous fera prier pour ceux qui sont indifférents et méchants à votre égard. C'est le fondement. Quand l'ange ayant charge de sceller à traverser le pays, il avait l'ordre de faire une marque sur ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Je dirais ceci avec respect et considération maintenant. Ne vous en prenez pas à moi. Ne vous fâchez pas contre moi plutôt. Mais qu'en serait-il si l'ange qui est chargé de sceller traversait cette nation aujourd'hui? Où trouverait-il des hommes si profondément consacrés à Dieu qu'ils gémiraient jour et nuit à cause des péchés de cette nation qui est en train de sombrer sous ses péchés? Où marquerait-il l'Église qui jeûne et qui prie et qui soupire? Seigneur Jésus, où trouverait-il cette personne? Nous avons désiré l'éducation, nous avons désiré les sermons éloquents, nous avons désiré le look hollywoodien et le fanatisme. Les églises doivent être de telle grandeur, elles doivent être somptueuses, elles doivent avoir des crucifixes partout et des grandes orgues. Ces choses sont très bien, mais nous avons mis toutes nos pensées là-dessus et avons mis de côté la chose réelle. Le peuple pentecôtiste court après l'évidence initiale, parlant en langue et criant. C'est très bien, mais vous avez laissé dehors la chose réelle, car il est prouvé que vous ne pouvez aimer Dieu et haïr en même temps. La même fontaine ne peut donner à la fois l'eau douce et l'eau amère. Il ne peut se trouver à la fois le parler en langue et la guérison divine dans l'Église, ainsi que l'envie, les querelles, la malice et la haine. Non, c'est impossible. Cela ne se mêlera pas. Dieu mettra cela dehors aussi certain que le monde existe. Vous devez revenir. C'est ce qui est arrivé à l'Église. Vous dites, êtes-vous contre le parler en langue? Non, monsieur, bien au contraire, c'est la parole de Dieu. Toutefois, j'ai vu où l'Église a dévié dans toutes sortes de choses insensées. Elle n'en est jamais revenue, ni n'a encore jamais reconnu ceci. Car ils font ces choses, et la malice et la haine, et les querelles y sont mêlées. L'huile et l'eau ne se mêleront pas. Vous voyez ce que je veux dire? Revenons. Laissons cette petite unité ce matin, ici au tabernacle Branham, prendre la résolution de revenir. Revenons au fondement. Ô Dieu, crée en moi un esprit droit. Crée en moi un amour, une paix qui surpasse toute compréhension. Et ô Dieu Tout-Puissant, à partir de là, façonne-moi. Quand je verrai quelque chose aller de travers, laisse-moi revenir au fondement et recommencer. Démolissons et revenons à nouveau au fondement. Cela doit être construit correctement, car ce n'est pas la hauteur de votre construction qui importe. La chute n'en sera que plus imposante quand vous tomberez. Amen. Ô peuple, quand Israël venait communier avec Dieu, il n'y avait qu'un seul lieu pour communier avec Dieu, et c'était dans le tabernacle. C'était toujours dans le tabernacle que se faisait le sacrifice sanglant. Dieu n'a jamais promis de rencontrer le peuple ailleurs que sous le sang répandu. Pensez-y. Je vais vous laisser l'avaler un moment. Nous allons bientôt terminer. Regardez, Dieu n'a jamais promis de rencontrer l'homme sur la base de ses mérites, sur le potentiel de l'homme ou de la femme. Il ne leur a jamais promis de les rencontrer là. Il n'y a pas de communion avec Dieu sur la base de vos propres mérites. Le seul lieu où il y a la communion est sous le sang versé. De la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est qu'à travers le sang, un substitut innocent pour couvrir le pécheur coupable et pénitent. Seulement le sang. Maintenant, remarquez rapidement. Israël allait au temple. Il répandait le sang. Et ce n'était que dans ce bâtiment que Dieu se rencontrait avec le croyant et communiait avec lui. C'était dans ce bâtiment que le sang était répandu. L'agneau mourait à l'autel chaque jour, le sang coulait et une fumée noire flottait au-dessus du tabernacle, et Dieu ne pouvait plus voir le péché. Donc le peuple se mettait sous le sang et entrait en communion. Maintenant, surveillez. Dans Exode, aux environs du 19e chapitre, nous découvrons que lorsque les enfants d'Israël furent sur le point d'entreprendre leur voyage, accordez-moi toute votre attention une minute encore avant de terminer. Dieu dit à Moïse, il dit, je voudrais que tu prennes une génisse rousse qui n'a jamais porté le joug, et j'aimerais que tu l'égorges. Ensuite, je voudrais, quand tu l'égorgeras, qu'Éléazar, le sacrificateur, se tienne là comme témoin. Et comme il s'y tiendra, une fois que la génisse est morte, qu'il plonge ses doigts dans le sang et qu'il en asperge sur l'assemblée, sur le lieu d'adoration, 7 fois à l'entrée, comme ceci. 7 fois devant l'arche, le lieu d'adoration publique. Ensuite, prends la génisse, couvre-la et brûle-la, et prends ses cendres et mêle-les à l'écarlate et à l'hysope et au cèdre. Oh, j'aimerais avoir le temps d'aller voir ce que sont ces choses, l'écarlate et l'hysope et le cèdre. On découvrirait que Jésus n'était pas mort sur un cornouiller comme ils le prétendent. Remarquez, ensuite brûle-les tous ensemble, et puis dépose-les hors du camp dans un lieu pur comme eau de purification. Et toutes les fois que quelqu'un sera en dehors de la communion, il devra venir et on aspergera sur lui cette eau de purification. Ensuite, il pourra entrer en communion. En dehors de cela, il ne pourra pas entrer. Surveillez maintenant la beauté de ceci avant de terminer. Tout d'abord, la génisse rousse. La couleur rouge signifie quelque chose. Rouge, pour nous, signifie danger. C'est un signal avertisseur. Cette couleur signifie arrêt. Il y a danger. Aussi, le rouge dans la Bible est une couverture. Le rouge est une expiation. Le rouge est une sécurité. Vous vous souvenez quand la prostituée Rahab laissa descendre les espions sur une corde cramoisie pour leur sécurité ou sous le rouge, c'est toujours sécuritaire. Or, le sang est rouge. Maintenant, regardez. Selon la recherche scientifique, vous prenez une pièce d'étoffe rouge, ou plutôt une pièce rouge de cellophane, et vous regardez à travers à une autre pièce rouge. Et le rouge à travers le rouge paraîtra blanc. Essayez pour voir. Prenez du rouge et regardez à travers du rouge. Il paraîtra blanc. Eh bien, nous sommes rouges par nos mauvaises actions. Si vos péchés sont comme le cramoisi rouge, Dieu, regardant à travers le sang versé du Seigneur Jésus, rouge à travers rouge paraît blanc, ils deviendront blancs comme la neige. Voyez ? Pas à travers votre quelque chose d'autre, mais à travers le sang, le seul lieu où il peut communier. En dehors du sang, votre propre justice, il ne la verra jamais. Vos bonnes œuvres, il n'en saura rien. Que vous ne veniez sous le sang. Ensuite, il vous voit comme étant son propre fils bien-aimé, ou sa propre fille bien-aimée, rouge à travers rouge paraît blanc. Quoi que vous ayez fait, amis pécheurs, quand Dieu regarde, quand il voit que vous confessez avoir été dans l'erreur par vos péchés, quand Dieu regarde à travers le sang du Seigneur Jésus, il vous voit blanc comme la neige. Quoi que vous ayez fait, il regarde à travers vous, à travers le sang de Christ. Vous êtes rachetés, chose précieuse. Dieu ne vous condamnera jamais plus. Il ne peut vous condamner. Quand Dieu créa le premier homme, il créa les cieux et la terre, et quand Dieu se retira de la vieille création, et en jeta un coup d'œil, ce n'était pas dans le but de la juger. Il la regarda et dit, « Comme elle est belle !» Il l'admira. Oh, le voyez-vous ? Il regarda et vit que cela était bon. Tout était parfait. Les arbres, tout. L'homme, la femme, tout était parfait. Il dit, « C'est très bon. » Mais Satan a perverti cela. Et si Dieu n'a pu condamner sa première création, combien plus lui est-il impossible de condamner sa seconde création, quand alors vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ? Vous ne pouvez le faire vous-même. Même si vous le vouliez de toutes vos forces, vous ne le pourriez pas. C'est un don de Dieu. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et celui qui viendra à moi, je lui donnerai la vie éternelle et le ressusciterai au dernier jour. Et quand Dieu vous a fait naître de nouveau par le Saint-Esprit, il ne peut que vous voir comme une œuvre parfaite, parce que c'est lui-même qui l'a faite. Gloire ! Amen ! Amen ! Il ne peut vous condamner, car vous êtes son œuvre. Amen ! Oh ! Je sens que je vais crier comme les méthodistes. Pensez-y, vous êtes l'œuvre de Dieu. Il l'a fait, comment ? Par sa grâce souveraine. Pas parce que vous avez sauté, pas parce que vous êtes allé à l'église, pas parce que vous avez tourné une nouvelle page. Mais parce que Dieu, par sa miséricorde, vous a amené en Christ et dans la communion, et il vous regarde comme une œuvre parfaite, son œuvre. Pourquoi ? Je l'ai amené, je l'ai présenté à travers le sang, et mon œuvre est parfaite. Il a dit, vous êtes l'œuvre de Dieu. Maintenant, juste un moment. De quelle façon venait-il ? Il montait, et s'ils avaient mal agi en quoi que ce soit, ces eaux de purification doivent être conservées dans un lieu pur. Oh, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter là-dessus un bout de temps. Un lieu pur. Les eaux de purification sont la parole. Paul a dit dans Éphésiens, il a dit, car il nous a lavés par l'eau de la parole. Voyez, les eaux de purification, la parole. La parole prêchée vous purifie. Vous entendez la parole et vous dites, je suis dans l'erreur. Je ferais mieux d'abandonner ceci. Je joue à l'église. Je ferais mieux d'abandonner cela. Voyez, ce sont les eaux de purification. Elles devraient être conservées dans un lieu pur. Pas dans un prédicateur qui fume, non monsieur. Pas dans un prédicateur qui fait le tour du pays en compagnie d'autres femmes et des choses comme celle-là. Pas dans une église qui pratique l'amour libre et toutes ces choses impies et qui vont aux matchs de baseball et qui ont de grands divertissements et des danses sociales dans l'église. Elle doit être conservée. La parole de Dieu doit être conservée dans un lieu pur. Amen. Un lieu pur qui fait que lorsque l'homme du dehors vient, il peut venir en un lieu pur et être aspergé par les eaux de purification. Ensuite, que va-t-il s'en suivre? Quand il enseignera la parole, si les eaux sont bonnes. Maintenant, si vous aspergez de mauvaises eaux comme « Venez joindre cette église-ci, c'est une bonne église. Vous devriez y mettre votre nom dans le livre. Oh, nous l'avons, gloire à Dieu, c'est nous qui l'avons. » Ce sont là les mauvaises eaux. Quelles étaient les bonnes eaux de purification? Elle parlait d'un substitut innocent qui mourait pour un pécheur coupable. La jeunesse rousse mourait, ce qui était un type de Christ. Et rappelez-vous, elle n'avait jamais porté de joug sur son cou. Christ n'a pas été sous le joug d'aucune organisation. Il ne s'est pas du tout impliqué avec elle. Il n'a pas été sous le joug de toute cette futilité. Si nous avions le temps, nous toucherions à cela. Très bien. Mais cela a été fait une eau de purification, voyez. Cela n'élève pas une église dénominationnelle. Cela n'a rien à voir avec cela. Ça ne parlera que d'un substitut mort qui est mort à votre place. Pas nous, le peuple. Pas notre grande église. Pas notre organisation. Mais de quoi s'agissait-il? D'un substitut innocent qui est mort à votre place, lequel était Jésus-Christ le Seigneur. Ensuite, nous apportons la parole. Les eaux de purification sont appliquées sur la personne. Maintenant, remarquez, rapidement avant de terminer. Maintenant, la chose suivante. Le sang de ce substitut innocent était aspergé 7 fois comme cela, comme témoignage public. 7 est le nombre complet de Dieu. 7 âges de l'Église. Les 7 derniers âges de l'Église. L'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée et l'Église. Chaque âge de l'Église doit venir à travers ce même sang versé. Maintenant, l'homme est venu. Il s'est assis dans la congrégation. Il a entendu la parole. Maintenant, surveillez, il veut communier. Le bâtiment, ce bâtiment-là, est le seul lieu de communion, le seul lieu où il pouvait aller. C'était dans le bâtiment pour communier avec Dieu, car Dieu ne les rencontrait que là. Maintenant, surveillez attentivement. Quel type de Christ? Aujourd'hui, Dieu n'a pas promis de communier à travers les méthodistes, à travers les baptistes, à travers les pentecôtistes. Il a promis de communier en Jésus-Christ. C'est le lieu de votre communion. Vous pouvez fraterniser entre hommes de votre communauté, les y joindre. Vous pouvez aller de l'avant, joindre les orignaux, les élans, les originaux. Ces loges-là, elles sont très bien, elles sont bien. Mais ce n'est pas de cela que je parle en ce moment. Je parle de la communion avec Christ, l'Éternel. Quand le sang a été aspergé, les eaux, lavage d'eau par la parole est sortie. Vous dites, eh bien, regarde, j'ai joint l'Église, j'ai fait ceci, mais en fait, je n'ai pas eu cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les eaux de purification. Eh bien, je pensais que tout était bien si j'allais à l'Église de ma mère. Ce n'est pas cela, frère. Non, monsieur. Quelqu'un est mort pour vous. C'était Jésus-Christ. Vous devez l'accepter. Ensuite, vous recevez cela. Ensuite, la chose suivante, vous avancez vers la communion. Vous voici parti. Eh bien, frère Branham, où puis-je communier? En Christ, dans le temple, le tabernacle de sa demeure. Comment est-ce que je fais ça? D'abord, vous marchez jusqu'à l'entrée. Vous avez entendu la parole. Ensuite, vous marchez jusqu'à l'entrée. Vous avez une foi mentale. Vous dites, oui, j'ai entendu la parole, j'y crois. Or, avant de pouvoir entrer dans ce lieu, il y a un voile de sang qui y est suspendu pour la purification. Et vous devez reconnaître ce sang comme substitut innocent. À travers la prédication de la parole, faites descendre le voile du sang. À l'intérieur, vous voyez que quelqu'un est mort à votre place. Et vous renoncez à toutes vos possessions terrestres, toutes vos idées farfelues, toutes vos danses, vos habitudes de vie immorale et vos propres théories. Votre adhésion à l'Église et vos nouveaux règlements, vos 10 commandements, votre abstinence de la viande et toutes ces choses, vous les mettez de côté. Plongez tout entier dans le sang et dites, « Seigneur, lave-moi et purifie-moi. » Ensuite, le Saint-Esprit, à l'intérieur de cette cellule de sang, là où l'on communie, vous fait passer à travers le sang de la purification, dans le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Ensuite, vous êtes dans la communion. Les choses anciennes sont passées. C'est ensuite que vous êtes dans la communion, par le Saint-Esprit, vous attirant dans une relation avec Dieu. Voici, il n'y a qu'un seul lieu de rencontre aujourd'hui où l'homme peut accéder pour adorer dans une véritable communion, et c'est en Jésus-Christ. Voyez-vous cela, Église ? J'ai été lent ce matin. Je ne pensais pas, je n'avais pas à dessein de rester tout ce temps, mais j'espère que vous voyez ce que j'ai essayé de vous présenter. C'est que, quel que soit le fondement, vous êtes peut-être une très brave personne, vous fréquentez peut-être une bonne Église. Tout cela est bien, je n'ai rien contre cela. Mais êtes-vous déjà descendu communier avec lui? Venir, et de la seule manière que vous le ferez, sera à travers le sang de ses souffrances. Puis vous vous rendez à l'endroit où la parole est prêchée, et vous dites, oui, Jésus est mort à ma place, je crois cela. Maintenant je dois être purifié de ce tempérament et de tout ce bagage que je traîne. Maintenant, Seigneur, prends-moi sous le sang, me voici. Et après un bout de temps, cette douce paix qui surpasse toute intelligence descendra dans le cœur humain. Ensuite, vous lèverez les yeux vers le ciel et vous direz, « Maintenant je demeure en communion. Où que j'aille, quoi que je fasse, je suis dans cette merveilleuse communion. Une paix qui surpasse toute intelligence. Le Saint-Esprit vit en moi. Si la mort survient, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Elle ne peut me nuire. Votre âme désire ardemment quelque chose de là-bas. Quotidiennement, vous la recherchez et vous savez où la trouver. Votre ancien tabernacle souffre et gémit et se plaint. Et oh, pendant que les douleurs de l'enfantement se font sentir, c'est vrai, qu'est-ce que cela signifie? Cette vieille masse d'argile va un jour disparaître. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de cette petite masse d'argile qui essaye de sortir, qui essaye de se libérer. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit oiseau appelé l'âme. Et le seul moyen qu'elle a de se libérer, c'est qu'un matin, l'argile cédera et nous l'abandonnerons et nous élèverons pour saisir à jamais le prix éternel. Quand l'âme ira rencontrer son bien-aimé là-bas de ses 2 bras ouverts. La seule chose qui vous garde ici est ce vieil amas d'argile. Et le seul moyen qu'a Dieu de prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est à travers cette masse d'argile. Et c'est pourquoi il vous garde ici. Et c'est pourquoi les gens malades ont un droit de venir à Christ. Dites, Seigneur Jésus, si seulement tu me guérissais maintenant, je partirais, oh, je ne suis peut-être pas un prédicateur, mais je parlerai de cela. Je ferai tout ce qu'il me sera possible de faire. Tu es le cep, je suis l'un des sarments. Or, le cep ne porte pas de fruits, les sarments les portent. Pas le cep, mais le sarment. Le cep donne seulement l'énergie. L'évangile peut être prêché par Christ si seulement vous ouvrez à être un sarment porteur de fruits pour que les autres voient Christ en vous, par votre témoignage, par votre vie et votre manière de vivre. Il est l'énergie, mais vous êtes l'image visible. Vous êtes la Bible ambulante. Que Dieu vous bénisse, mes amis. J'ai foi que vous prendrez ces paroles entrecoupées ce matin, car je me sentais physiquement faible, et que vous les prendrez à cœur, réalisant qu'elles me sont chères. Et puis venez à ce fondement, revenez à la communion avec Christ. Ensuite, vous n'aurez jamais plus à courir d'ici à là et de là-bas à ici. Vous êtes en communion constante avec lui tout le temps. Courberions-nous la tête un moment? La sœur pianiste, si vous veniez, chaque tête inclinée. Tandis que nous réfléchissons à ceci, Je voudrais que chacun d'entre vous prenne ceci profondément à cœur. Ai-je vraiment, suis-je vraiment à la place où je devrais être? Ai-je vraiment une paix qui surpasse toute intelligence? Ai-je vraiment avec Christ la communion qui m'est des plus nécessaires? Est-ce que je parle avec lui? Est-ce que mon cœur brûle de lui parler chaque jour? Quand je rate mon petit temps de prière, est-ce que mon cœur meurt d'envie d'être avec lui? Si ce n'est pas le cas, mon ami, viens aujourd'hui. Ne viendrez-vous pas? La seule chose que vous aurez à faire sera de simplement l'accepter. Christ a dit dans sa parole, « Celui qui écoute mes paroles, c'est ce qui a été prêché ce matin, et croit à celui qui m'a envoyé, pas dans votre tête, mais dans votre cœur, et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Dès l'instant, dès qu'il croit, et ne vient jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Notre Père céleste, comme nous approchons la fin de ce message de communion, nous te remercions parce que nous pouvons nous asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ et communier dans la parole, tandis que le Saint-Esprit nous la portait si amoureusement, si tendrement, fortifiant nos faibles êtres et nous faisant de sa substance. Nous t'en remercions, Seigneur. Père céleste, as-tu fait aujourd'hui une nouvelle créature quelque part parmi ceux qui sont là? Pendant que la parole était prononcée, sont-ils venus aux eaux de purification? Le sang est maintenant en train de les couvrir, comme ils sentent que quelque chose fait pression dans leur cœur. As-tu fait une nouvelle créature ce matin, Père? Toi seul peux le faire. Si c'est le cas, Père, puissent-ils témoigner de la reconnaissance à l'instant? Et tandis que nous avons nos têtes inclinées, si quelqu'un sent que Dieu lui a parlé et que vous voulez devenir son serviteur, il ne vous est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Que personne ne regarde à part Christ et moi-même. Vous ne levez pas la main vers Frère Branham, vous la levez vers Jésus-Christ disant, « Seigneur, je crois vraiment. » Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre lèverait sa main disant, « Dieu vous bénisse, frère. » Quelqu'un d'autre lèverait sa main disant, « Je crois maintenant sur la base du sang versé. » Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, ma sœur. Dieu vous bénisse à l'arrière, mon frère, sur la base du sang versé. Ô Dieu, voici ma main, à l'heure même et dorénavant. Ce matin, Seigneur, je crois qu'à l'intérieur de moi, quelque chose s'est passé, m'a donné un nouveau départ. Je crois que c'est là, déjà, quelque chose s'est passé, une paix dans mon cœur. Selon ce qu'il a dit, qu'est-ce qui a fait cela? Personne ne peut le faire si mon Père ne l'attire. Et comme ils l'acceptent, ils reçoivent la vie éternelle. À la minute près où vous levez la main, Dieu la voit. Y en a-t-il un autre avant de prier? Dieu vous bénisse, madame, je vous vois. Dieu vous bénisse, frère, je vous vois. Que Dieu vous bénisse aussi, frère. Venons sur la base de quoi? Sur « parce que je veux aller à l'église »? Parce que je veux tourner une nouvelle page? Non! Mais parce que quelque chose m'a parlé ce matin, et je sens que je me tiens maintenant dans la cellule de sang. Quelque chose m'est arrivé. Je crois réellement de façon différente ce matin, comme je n'avais jamais cru de ma vie. Dès maintenant, je crois que je suis devenu un fils ou une fille de Dieu. Et je lève ma main vers toi, ô Dieu, pas vers Frère Branham, mais vers toi, ô Dieu, que j'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. En mon cœur, quelque chose me dit que tu es mon sauveur, et je t'accepte maintenant dans mon cœur. Et je vais être une femme différente ou un homme différent à partir d'aujourd'hui. Je le sais, c'est tout. Que Dieu vous bénisse, sœur. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Une douzaine de mains de plus se sont levées. Parmi ce petit groupe de gens, d'une couple de centaines de personnes ou plus, voudriez-vous lever la main et dire « Je l'accepte » Ce ne sera pas possible à moins que Dieu ne vous le dise, car autrement vous feriez quelque chose de faux. Par contre, les gens qui ont levé leurs mains tout à l'heure sont en train d'essuyer les larmes de leurs yeux. Qu'est-il arrivé? La propre parole de Dieu l'a dit. Celui qui écoute mes paroles, c'était vous. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Comment pouvez-vous le faire à moins qu'il ne se révèle lui-même à vous? Et parce qu'il l'a fait, et que vous avez levé la main, Dieu dit, il a la vie éternelle, et ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, pour ne plus jamais faire face au siège du jugement. Vous êtes déjà jugé, Dieu vous a jugé, vous a tiré à l'intérieur, vous avez accepté Christ en le prenant comme votre sauveur. Aujourd'hui, vous êtes sauvés parce que vous avez cru en lui. Y en aurait-il un autre avant de prier? Très bien. Tandis que nous inclinons nos têtes, rapidement. Maintenant, Père Céleste, Je ne sais ce que je pourrais faire de plus. J'ai demandé à ce que cette parole sorte et trouve son point d'ancrage. Plusieurs ont levé leurs mains ce matin. Ils croient en toi et ils implorent, Seigneur, ta grâce et ton pardon. Et à la minute où tu leur as parlé, ils l'ont saisi. Ils surent que tu avais déposé quelque chose dans leur cœur. Quelque chose, rien d'émotionnel, mais c'était quelque chose qui brûlait à l'intérieur. Et ils l'ont accepté. Et tu as dit, parce qu'ils l'ont fait, tu les as acceptés. Donc ils sont maintenant sauvés sur la base de ta parole. Quiconque le croit de tout son cœur a dès maintenant la vie éternelle, conformément à la parole infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en remercions. Nous prions que tu leur accorderas longue vie. Fais d'eux tes serviteurs, Seigneur, et qu'ils soient acceptés dans le bien-aimé. Et puissent-ils être maintenant remplis du Saint-Esprit, chacun d'entre eux, scellés dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. Tandis que nos têtes sont inclinées, ceux qui ont levé leurs mains, vous lèveriez-vous juste un moment? Levez-vous ceux qui ont levé leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Restez debout, très bien. Tous ceux qui ont levé leurs mains, levez-vous simplement. Restez debout quelques instants si vous le voulez. Tous ceux qui ont levé leurs mains, très bien. Restez debout, maintenant que l'auditoire lève sa tête. Ceux-ci sont vos concitoyens du royaume. Regardez autour pour voir qui sont ceux qui ont accepté le Christ. Et donnez-leur la main, voudriez-vous? Quelqu'un près d'eux, tendez-leur la main et dites, « Que Dieu te bénisse, mon frère. » À chacun, vous êtes en train de rendre un témoignage public, mes amis. Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant le Père et les saints anges. » À l'instant, une vie immortelle vous habite. Nous en sommes reconnaissants pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une longue vie et ses plus grandes bénédictions. Puissiez-vous ne jamais oublier cette merveilleuse communion dans votre cœur à travers Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse désormais. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, si je vous ai cité les Écritures correctement, écoutez ce que Dieu a dit ici dans sa parole. Écoutez ce que Jésus dit ici. Celui qui écoute mes paroles, c'est la prédication de l'Évangile, et qui croit dans son cœur à celui qui m'a envoyé à... C'est un temps présent, dès maintenant, la vie éternelle qui ne peut cesser. Vous ne connaissez peut-être pas le grec, mais la traduction correcte grecque est zoé, ce qui signifie la vie même de Dieu. Il a zoé et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici ce qui vous arriverait si vous mouriez tout de suite. Conformément à la parole de Dieu, vous sortez de l'existence des gens qui vous voient pour passer en sa présence. Et c'est là où vous vivez. Vous regardez derrière et vous n'êtes plus de ce monde. Vous vous trouvez dans un autre monde. Et que faites-vous ensuite? Vous êtes comme ces hommes qui sont sous l'autel disant, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Voyez, vous ne serez jamais un ange. Vous n'avez pas été créé ange. Vous avez été créé hommes et femmes. Et c'est pourquoi vous désirez ardemment revenir. Car vous constatez ensuite, quand vous montez ici et que vous dites, « Oh, je vois tout ce qui en est. » Je sais pourquoi je devais y mourir. Je sais pourquoi c'est arrivé. Vous ne mourrez jamais. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous ne pouvez mourir. Vous ne pouvez mourir. La partie mortelle meurt, mais vous êtes vivant ici. Votre esprit est ici même avec Christ. Ensuite, vous dites, Seigneur, jusqu'à quand? Parce que vous n'avez pas été créé pour demeurer là-bas. Vous n'avez pas été créé cela parce que vous êtes un être humain et vous languissez de revenir dans ce corps parfait à nouveau. Et il a dit encore quelque temps jusqu'à ce que vos compagnons de service aient souffert comme les martyrs ont souffert par le passé. Ensuite, vous retournerez. Après être sorti de ce corps-ci, sorti de la lumière cosmique et du pétrole et de la matière dont vous êtes fait, et que vous passez dans la quatrième dimension et de là à la cinquième puis à la sixième, ensuite vous vous retrouvez juste sous son autel. Dieu est dans la septième. Or, quand Dieu laisse repartir votre esprit, il revient à quoi? Il sort de la sixième dimension pour entrer dans la cinquième, la lumière cosmique, hors de la lumière, dans le pétrole, hors du pétrole, dans l'essence. Et vous revoilà de retour à la terre à nouveau, une toute nouvelle personne. Pas âgée, ni abattue, mais pour ne plus jamais être malade. Vos cheveux ne tourneront jamais plus au gris. Vous ne serez jamais plus ridés. On ne se séparera jamais plus. Vous ne mourrez jamais. Vous n'aurez jamais faim. Vous n'aurez jamais d'ennui. Vous marcherez avec vos bien-aimés et leur donnerai la main, et mangerai, boirai, bâtirai des maisons, et les habiterai, et vivrai à tout jamais dans la présence du Seigneur Jésus. C'est ce que vous avez reçu ce matin, parce que vous avez écouté la parole de Dieu. N'est-ce pas simple? Les prédicateurs rendent cela si compliqué. Vous devez venir et vous empêcher des choses et toutes ces autres choses. Ce n'est pas cela. La Bible a dit, c'est si simple que l'insensé ne ferait pas d'erreur. Juste en l'acceptant, en y croyant, quelque chose arrive ici. Ensuite, Dieu entre avec son esprit dans ce petit habitacle creux, là dans le cœur, cette âme. Maintenant, vous croyez la parole de Dieu et vous avez la vie éternelle. Ce qu'il vous faut maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé d'eau, c'est d'être baptisé pour la rémission de vos péchés. Ensuite, Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit à la minute où vous êtes baptisé. Il peut le faire tout de suite, sans même avoir été baptisé. Puis une paix descend dans le cœur, et tout. Ensuite, vous commencez. Ensuite, vous pouvez réellement crier comme un chrétien devrait crier. Ensuite, le parler en langue, et ensuite les dons de l'Esprit commencent à se manifester derrière un cœur pur, un réel fondement. Observez alors ce qui arrive. Ensuite, c'est le réel Saint-Esprit. Mais si vous ne venez que suite à une petite émotion, ça ne marchera jamais. Vous sortirez directement et en haïrez la cause. Surveillez vos cœurs maintenant, comme il vous tarde de lire la Bible, comme vous désirez tant vous retrouver seul pour lui parler et dire « Ô Père, ô je t'aime tant !» C'est la communion, voyez. C'est ce qu'il nous faut. Ne le pensez-vous pas, mes amis? Que Dieu vous bénisse. Il y a quelques personnes malades ici pour qui on va prier. Nous n'avons pas distribué de cartes ou rien d'autre pour amener les gens, les amener dans la ligne. Aussi, je vous demanderai, je crois les voir conduire un homme et lui donner un siège. Je me suis assis entre deux frères ce matin, et j'étais assis là, et puis, je savais qu'ils avaient tous les deux besoin d'une guérison. Ensuite, là-bas, à l'arrière, j'ai vu quelqu'un d'autre entrer, que je sais être très malade. Si vous croyez que je suis son serviteur, maintenant, regardez, qu'est-ce que ceci? Dans le jardin d'Éden, la communion de Dieu et de son chef-d'œuvre, l'être humain, était parfaite. Dieu était là, veillant sur Adam. Or, une fois que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés du péché, que représente Dieu à nouveau? Nous voici de retour à la communion. Le voici. Nous sommes en communion. C'est lui que vous sentez dans votre cœur. C'est lui qui vous fait oublier tous vos ennuis. Et ils ne sont plus. C'est ce qui a fait cela. C'est ce même Seigneur Jésus qui est mort pour vos péchés, qui est mort pour vos maladies. Or, vous ne pouvez jamais, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez jamais, au grand jamais, atteindre à quoi que ce soit avec lui avant de croire d'abord dans votre cœur qu'il est mort pour vos péchés ou votre maladie. Pas vrai? Bon, il y a des choses telles les dons, c'est vrai. Et Dieu, par sa grâce, a donné un don qui vous permettrait de vous tenir ici, et il vous dirait probablement qui vous étiez, d'où vous venez, ce qui en est de ceci, et quelle est votre maladie, et ce qu'il adviendra de votre venue. Ce pourrait être ainsi. Ce serait toutefois basé sur quoi? Sur rien d'autre que la parole de Dieu, voyez, sur votre foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Là, ne croyez-vous pas que son esprit peut se déplacer dans ce bâtiment et guérir toute personne malade? Mon frère, toi qui es malade, ne crois-tu pas cela? Vous croyez qu'il y a, sachant que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'accepter ou de mourir. Car le cancer vous tuerait, il ne vous resterait plus qu'à mourir, voyez. Et ne croyez-vous pas que Jésus-Christ va vous guérir? Vous n'avez qu'un seul espoir, et c'est en lui. N'est-ce pas, frère? C'est le seul moyen qui vous permettra de retrouver la santé. Les médecins vous ont abandonné. Ils ne peuvent rien faire à ce sujet. Le cancer se répand, il va vous tuer. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ce sont d'honnêtes hommes. Ils vous ont ausculté. Madame Morgan, êtes-vous quelque part à l'arrière? J'ai cru vous voir rentrer tout à l'heure, Madame Morgan. Ici, tournez-vous. Pouvez-vous vous retourner, monsieur, juste pour vous retourner? Levez-vous, Madame Morgan, si ça ne vous ennuie pas. Juste un moment. Elle est infirmière. Un de mes premiers cas. Il y a environ 12 à 14 ans, elle était mourante. Il ne lui restait plus que la peau et les os. C'était un cas de cancer généralisé. Elle était rongée par le cancer. Regardez-la maintenant. Aimeriez-vous avoir une santé comme celle-là à nouveau? Qu'est-il arrivé? Elle a cru à la chose même à laquelle je vous demande de croire. Elle n'aurait pas pu, quoi qu'il... Il était impossible de changer la situation. Le médecin est venu et a dit, encore quelques heures ou quelques jours, elle mourra. Il y en a d'autres ici. Ici est assise une dame. Il y a quelques Pâques, elle est notre pianiste, elle était atteinte du cancer. Il y en a plein ici, voyez, qui étaient atteints du cancer. Qu'est-il donc arrivé? Est-ce que tous ceux qui sont venus ont été guéris? Non. Les uns l'ont cru d'ici, de leur tête, mais d'autres ont regardé à Dieu et c'est descendu ici. Ce que le médecin dit n'a plus d'importance, ou venant de qui que ce soit, c'est accompli, voyez, c'est accompli parce que c'est d'ici. Pouvez-vous le croire de cette façon? Vous croyez qu'il va vous laisser vivre, mon frère? Le serviriez-vous toute votre vie? S'il vous laissait vivre, le feriez-vous? De tout votre cœur? Et vous croyez que Jésus est mort pour vous donner la santé, mon frère? Que Dieu bénisse votre cœur. Je crois que vous allez l'obtenir, c'est ça. À vrai dire, je crois que vous l'avez déjà, voyez, parce que la minute où vous croyez, c'est alors que vous la recevez. Maintenant, combien avec lui, de ceux qui sont malades, se lèveraient juste une minute? Qui sont malades, qui se tiendraient avec ce frère? Tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, restez debout un instant. C'est bien, c'est bien. Maintenant, vous lèveriez-vous, mon frère? Très bien. Je veux qu'une personne en santé qui se trouve à leur côté leur impose les mains. Le ferez-vous? Que quelqu'un se tourne et impose ses mains sur ces personnes. C'est bien. Oh, quel temps! Le grand médecin, sœur. Je suis responsable pour la parole. Je vous le dis par la parole de Dieu que Jésus-Christ, celui qui est mort pour avoir cette communion, est ici même à l'instant. Il se trouve dans le bâtiment en ce moment avec vous tous. C'est lui. L'affaire, ce n'est pas de se toucher ou de me toucher ou de toucher un prédicateur, mais c'est de le toucher, lui. Voyez, c'est de le toucher. Croyez-vous maintenant que votre foi s'est élevée à l'endroit où vous sentez en vous-même que vous allez être guéri? Si c'est le cas, dites Amen. Courbons la tête. Je veux que chacun d'entre vous, je vais prier et vous répéterez cette prière du fond de votre cœur. Répétez seulement ce que je dis. Frère Branham prie et la congrégation répète la prière après lui. Note de l'éditeur. Cher Dieu, je viens à toi maintenant, croyant que tu as donné Jésus pour guérir mon corps et pour sauver mon âme. Je l'accepte comme mon sauveur et je l'accepte aussi comme mon guérisseur. Tes serviteurs, les médecins, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi, mais ils ne sont que des hommes et ils ont atteint leurs limites. Aussi je m'en remets à toi, le grand Créateur, celui qui m'a créé. Tu connais chaque partie de mon corps. Et je crois dans mon cœur que je vais être guéri parce que je me suis levé y croyant. Et sur la base du sang répandu, je crois. Et dans mon cœur, quelque chose est arrivé. Et je sais que je vais être guéri. Et je t'en donne la louange, Seigneur. Et je te servirai toute ma vie et donnerai mon corps et mon temps à ton service. Seigneur, je crois. Avec vos têtes inclinées maintenant, gardez cela dans votre cœur. Gardez cela confessant, Seigneur, je crois. En ce moment, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes guéri. Le Saint-Esprit, cette vérité, cette foi, s'est logée dans votre cœur. Je vais maintenant prier pour vous. Et ce que je ferai, c'est que je prierai et chasserai ce mal, ce doute qui vous troublerait, et le ferai vous quitter pour que vous puissiez sortir d'ici vraiment reconnaissant. Père céleste, je viens à toi comme ton serviteur inutile. Comme mes empreintes sont sur cet autel, je me rappelle les années que je t'ai servi ici. Je me rappelle de l'ange qui m'a rencontré ici. Je me rappelle les paroles qu'il m'a dites et ce que tu ferais si je demandais et amenais les gens à croire. Et je viens maintenant, Seigneur, défier cette puissance démoniaque du doute qui tournerait autour de ces gens pour les faire douter de quelque manière. Je viens à travers le sang du Seigneur Jésus. Je viens par ce tapis de bienvenue qui s'est déroulé pour moi ce matin, qui amenait chacune de ces âmes directement au trône blanc de Dieu, là-bas, comme je l'ai fait pour cette fille indienne, et où les saints anges volaient avec leurs ailes sur leur face. Et je te les présente ce matin, Seigneur, et j'applique le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur eux. Je condamne tout démon de doute, toute ténèbre, toute ombre de la mort. Je te réprimande. Dans le nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de ces gens pour qu'ils retournent guéris et en santé. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant, par Jésus le Fils de Dieu, je le demande et le prononce afin qu'il en soit ainsi. Amen. Levez les mains maintenant et dites, merci Seigneur pour ma guérison. Regardez, c'est de cette façon, merci Seigneur pour ma guérison. Oh, que quelqu'un se lève et leur donne la main et les félicite pour leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est terminé. Maintenant, regardez, je les ai vus soutenir un homme à l'arrière. J'ai vu un homme ici. Monsieur, vous n'aurez pas à être reconduit. Vous êtes raffermi. Dieu vous donne de la force. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine! M'appuyant sur ses bras puissants, j'ai une paix bénie. Mon Seigneur à mes côtés, m'appuyant sur ses bras puissants. Donnez-vous tous la main. Les hommes.